Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Marc, merci à vous. On vient de vivre une séquence assez édifiante entre Jean-Marc Morandini, le premier adjoint à la mairie de Nantes, pour parler évidemment de délinquance, d'insécurité, de tout ce qui se passe dans cette ville. On va continuer à en parler de tout ce qui s'y déroule à Nantes. Et chaque jour ou presque son fait divers, ou plutôt son fait de société. Insécurité chronique, aveuglement des responsables ou des irresponsables. D'ailleurs, la séquence que l'on vient de voir est assez édifiante à commenter. On va le faire avec nos invités autour de cette table sur ce sujet et d'autres. Jonathan Sixou, bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste auprès du magazine Causeur. Michel Taube nous accompagne.
Bonjour.
Bonjour, journaliste et fondateur d'Opinion Internationale, l'essayiste et président de Souverain Demain. Paul Melun est avec nous. Bienvenue et bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Et Arthur de Vatrigan nous accompagne. Bonjour, cofondateur du magazine L'Incorrect. On va voir différents extraits justement de l'émission de Jean-Marc sur place à Nantes. Mais je voudrais quand même, puisque nous l'écoutions ensemble, Arthur, qu'on nous la commentions. Donc, premier adjoint à la mairie de Nantes. On a cherché, vous l'avez bien compris, la maire de Nantes, Johanna Roland, toute la matinée. Elle est occupée. Elle a répondu à d'autres journalistes, mais l'équipe qui était sur place et qui a rencontré des commerçants et des habitants menés par Jean-Marc Morandini n'a pas pu obtenir cette interview. Puis, il y a eu cet échange sur l'insécurité. Le premier adjoint qui dit qu'il ne faut absolument pas faire d'amalgame, aucun lien entre immigration et insécurité. Qu'est-ce que vous retenez de cet échange ?
Ce qui est très intéressant, c'est que vous savez, on analyse les causes, donc il y a des problèmes de justice, des problèmes de politique nationale, européenne, et là on a l'exemple type aussi des responsabilités de politique locale. Parce que évidemment que le maire ou les adjoints ne peuvent pas tout, mais leurs décisions, leurs dénis, leurs mensonges portent aussi une responsabilité dans ce qui se passe dans leur ville. Et si la ville de Nantes, en 10 ans, est passée d'une ville la préférée des Français à la ville, une des villes les plus dangereuses, c'est évidemment en raison de choix de politique locale, c'est en raison de l'affiche de Madame le maire qui explique que Nantes doit être une ville accueillante, dont on accueille tous les migrants qui peuvent venir, sachant que c'est d'après plusieurs syndicats de police, plus de 50% de délinquance sur la voie publique est due aux migrants. Donc là, on est dans une négation des chiffres, on est dans un déni de l'insécurité, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on voit, il y a quand même un point commun, un dénominateur commun, c'est que c'est quand même des villes de gauche qui sont dans ce déni-là. Regardez un exemple, Jean-Marc Morandini avait fait un reportage à la Guillotière il y a quelques mois, tout le monde s'était scandalisé à juste titre, le maire avait dit « on va régler le problème », la région alloue 1 million d'euros de budget pour des caméras de sécurité, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise ce budget-là pour faire des urinoirs non mixtes. Voilà. Ou des urinoirs, je ne sais plus le terme. Inclusif.
Pour les femmes. Non, c'est des pistes de femmes.
À Nantes, hier, je voudrais juste rappeler, un jeune à Nantes a été touché par balle, tout près d'un point de deal. Plus de 12 douilles de balles ont été retrouvées. Son pronostic vital est engagé. Il s'agirait d'un mineur de 17 ans. Et c'est pour ça, évidemment, que Jean-Marc y est. Cela fait des mois sur ces news que nous avons réalisées. Vous l'avez commenté avec nous des reportages au moment où l'on nous disait pourquoi faire ce focus sur Nantes. Malheureusement, eh bien, la réalité est bien là. Et moi, c'est la question, c'est quand le premier adjoint lui pose la question, il dit qu'il y a une exagération, il dit qu'il y a un amalgame, il dit qu'il y a une stigmatisation. Mais jusqu'à quand va-t-on dire ça ? Alors qu'on a écouté au micro de Jean-Marc, Jonathan Sixou, tous les habitants, quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques, disent que ce n'est plus possible. Les commerçants, des représentants aussi de syndicats étudiants.
C'est une chose qui s'appelle le déni. Alors on a cet exemple avec ces responsables politiques, encore une fois, que ce soit à Nantes, à Grenoble, à Lyon, etc. Mais vous avez ce déni, vous le retrouvez, ce déni également dans la presse. Je remercie ma chère patronne Elisabeth de m'avoir envoyé un lien montrant un reportage dans le journal de TF1, c'était hier à Nantes.
Elisabeth Lévy, oui.
Qui interview Victoire, une Nantaise que nous avons déjà eu l'occasion de voir sur CNews, qui n'en peut plus des deals. Elle est en plein centre-ville et elle n'en peut plus de l'insécurité qui gangrène vraiment sa vie. Et pendant l'interview, elle est à sa fenêtre, elle est chez elle, Et les dealers qui sont en bas l'insultent, lui disent, je ne vais pas vous répéter, c'est les doux mots qui disent. Et elle dit au journaliste, ben voilà, là je suis pas prête de ressortir de chez moi, j'ai envie de pleurer. Commentaire du journaliste en off. En voix off. C'est son sentiment. Elle a l'impression d'être en danger, mais est-ce la réalité des Nantais, etc., etc. Tant que les journalistes feront le jeu, je dis pas tous les journalistes évidemment, mais tant que vous avez finalement un discours public qui fait ce jeu-là, qui refuse de nommer les choses par leur nom, de reconnaître la vérité en face, c'est même pas tant la reconnaître que de la dire, de la regarder, de l'observer. Et le cas échéant, de corriger si ça va mal. Tant qu'on est dans cette voie à contresens, oui, rien ne s'arrangera.
Des questions concrètes ont été posées au premier adjoint. On lui a demandé pourquoi c'est un choix politique que la police municipale ne soit plus présente à partir de minuit. Il se peut qu'une femme, et d'ailleurs un homme, ait besoin de la présence de la police municipale après minuit. Le dimanche également. Écoutez de manière générale sa réponse au micro de Jean-Marc et vous réagissez juste après.
En fait, la police municipale, quand le premier mandat de Johanna Roland a commencé, 2014, qui était aussi le mien puisque j'étais élu pour la première fois à ce moment-là, il y en avait 95. L'objectif à la fin de ce mandat, c'est qu'il soit 200 et on est aujourd'hui autour de 180. Donc, dans les faits, c'est un x2. C'est un x2 dans un contexte où il est difficile de recruter ce type de profil. Comme dans beaucoup de métiers, je crois que chez vous aussi, dans le journalisme, ça ne doit pas être simple de recruter des journalistes. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Mais voilà, l'objectif, c'est x2. Et le recrutement se fait petit à petit. Après, vous ne pouvez pas tout mettre seulement sur les épaules de la police municipale. Quand je dis vous, c'est vous et nous, et les citoyens également. Et donc, évidemment, la police nationale a aussi son rôle à jouer. Et heureusement, la police nationale augmente aussi les effectifs. Monsieur Darmanin a annoncé 70 policiers qui sont arrivés début septembre. Il a annoncé une compagnie de CRS qui est arrivée, je crois, hier soir, ou qui est sur le point d'arriver. Et puis, on a également la question des effectifs de justice, puisque, comme vous le savez, ces sujets dont on parle aujourd'hui, ce sont des sujets qui concernent la prévention, la sécurité, c'est-à-dire aussi les enquêtes, c'est important les enquêtes, et puis la justice, parce que ce dont on parle, c'est quand même beaucoup de trafic de drogue, et le trafic de drogue, c'est lui qui génère une bonne partie de la délinquance.
Je précise que la maire Johanna Roland, c'est elle qui disait que l'été s'était bien passé.
Mais moi, je retiens de l'émission deux choses. La première, c'est que le refus de la maire de Nantes de répondre à une demande d'interview d'un média national dont elle sait qu'elle va porter surtout sur la question de sécurité, montre bien, comme vous le disiez, ce déni, mais pire qu'un déni, un refus de discuter publiquement et démocratiquement d'une question majeure pour nos concitoyens, qui est celle de la sécurité. Donc moi, je pense que c'est un petit fait politique, son refus. Et alors, qui est Madame la maire de Nantes ? Madame la maire de Nantes, elle a deux casquettes intéressantes. Elle est d'abord l'héritière de Jean-Marc Ayrault, qui a été maire de Nantes pendant 10, 15, 10, 18 ans, je crois. Et elle a été la directrice de campagne de Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle. Et donc, si vous voulez, comme le disait tout à l'heure Arthur, elle est un peu le symbole de ces villes de gauche qui refusent, quelles que soient les actions qui peuvent être menées, de discuter d'une préoccupation quotidienne des Nantais comme des habitants de toute la France, qui est celle de la sécurité. Le deuxième élément qui est intéressant avec Nantes, c'est que Nantes fait partie de ces villes où l'insécurité a gagné les centres-villes. Avant, l'insécurité était associée à des territoires perdus de la République qui, dans l'imaginaire collectif, étaient dans les banlieues, dans les banlieues éloignées des centres-villes. Et en fait, ça a complètement changé depuis 10-15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les quartiers d'insécurité, où il y a beaucoup de violence, où les femmes ne peuvent plus sortir librement le soir dès qu'il fait nuit, où il y a des agressions et des incivilités multiples qui sont totalement impunies, c'est plus dans les périphéries, c'est dans les centres-villes. Et donc Nantes, pourquoi Nantes choque tellement ? C'est parce qu'elle est le symbole de cette irruption de la violence dans les centres-villes. Nous sommes ici tout près de Paris. Paris, c'est la même chose. Les violences urbaines ne sont plus que dans le...
Savez-vous ce que dirait Johanna Roland de vous en ce moment ? Que vous êtes un agitateur de peur. Et je voudrais aller... Non mais... Mais nous sommes dans le même lot.
Les habitants des quartiers difficiles.
Justement, parce que c'est ce qu'a dit le premier adjoint. Je voudrais vous faire réagir. Et c'est vrai, je pense quand même que c'est la raison pour laquelle elle ne répond pas à la demande de certains médias. Et on va écouter sur les agitateurs de peur et même de haine ce qui a été dit ce matin dans notre reportage.
Crie derrière, monsieur, arrêtez de crier, ça sert à rien. Non, vous parlez pas, vous criez. Mais oui, mais on parle tranquillement. On a le droit de parler tous tranquillement. Venez, approchez-vous, il n'y a pas de souci. Vous dites que Nantes est une ville qui est sûre et qu'on fait du sécuritaire, enfin c'est ce que j'ai pu entendre de ce que vous criez, qui a une façon d'entretenir la peur. C'est ça, c'est ce que vous avez dit.
Et en fait, vous contribuez notamment par vos médias à propager cette idée comme quoi certaines villes en France seraient en fait le lieu de délinquance excessive, et c'est pas du tout le cas.
Madame, je ne sais pas si vous la connaissez. Madame, attendez juste un instant. Elle est restauratrice. Elle a le restaurant qui fait langue. Et ce qu'elle nous raconte quand elle nous dit que ses employés sont agressés, que les gens viennent, enfin ça, nous, si on est sur le terrain, c'est pour écouter les gens. Donc on l'écoute, on vous écoute aussi. Mais vous dites quoi? Qu'elle se fait des idées, cette dame?
Non, pas du tout. Enfin, je compatis totalement. Tous les faits divers qui se passent sur Nantes. Enfin, je compatis avec tous les commerçants et tous les habitants qui subissent des agressions. Et effectivement, elles sont réelles. Mais il n'empêche que votre manière d'aborder les choses, elle est très focale. Elle est très partisane. En fait, vous voulez montrer une image qui est en fait très négative de la ville, et c'est pas du tout le cas. Dans la ville, il y a des dynamiques qui sont très positives, et ça, il faut également le montrer. Allez voir dans les quartiers, il y a des gens qui font des choses bien, il y a des gens qui sont positifs, qui sont constructifs, et ça, vous le montrez pas.
Non, mais le problème, c'est que les gens ne peuvent plus vivre en centre-ville. C'est ça qui est un problème. Nous, les gens, on leur parle depuis plusieurs heures, on les a entendus sur nos médias. Vous entendez cette dame, tout à l'heure, on aura un monsieur. Venez vous aussi, parce que monsieur, je sais pas si vous le connaissez aussi, monsieur a monté un comité de sécurité, c'est ça, pour le soir. Donc si tout ça existe, c'est pas des idées que nous on se fait depuis Paris.
Oui, alors je ne renie pas du tout la réalité, je suis en fait quelqu'un qui est assez conscient et je m'informe de ce qui se passe. Et effectivement, je sais qu'il y a cette insécurité en centre-ville qui est assez grave. Mais néanmoins, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il n'y a pas que cette image-là en fait à montrer. Et que ça, en fait, si vous montrez ça aux Français, derrière, en fait, on a des gens qui vont aller voter pour l'extrême droite, des gens en fait qui vont aller stigmatiser les populations qui sont racialisées, et tout ça, c'est pas acceptable. En fait, toute cette construction-là qui est en train de se faire politiquement, socialement, elle conduit la France à une image qu'elle n'est pas réellement. Et c'est ça, en fait, que je veux dénoncer absolument.
Ben, vous l'avez fait, vous voyez, comme quoi on peut tout dire sur CNews.
Alors, comment vous réagissez? Bon, voilà, une confrontation de ce point de vue.
D'abord, petit 1, je pense que la démarche Jean-Marc Morandini de donner la parole à ce monsieur est bonne, parce que ça permet de voir, et son témoignage est assez intéressant, assez édifiant même, de comprendre la progression de son raisonnement. Que fait ce monsieur? Il arrive face à Jean-Marc Morandini et il dit ce que vous dites là, en gros, ce sont des sornettes, c'est pas vrai, tout va très bien à Nantes. Et puis, devant une ou deux autres informations ou interventions de riverains de Nantes, il finit par dire, à la fin, je le cite, il dit, il y a effectivement un problème d'insécurité dans le centre-ville, ce monsieur. Donc, so what? Donc, ça veut dire qu'il confirme la présence des caméras de CNews ici.
Il le reconnaît.
Ce qui est quand même assez grave.
Il y a des enfants, donc je suppose qu'il s'inquiète aussi.
Mais tout de suite, une fois qu'il l'a reconnu, c'est comme s'il était victime d'une forme de sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que dans l'immédiat, ils se sont obligés de nous ressortir la soupe un peu tiédie de la France insoumise. Et là, c'est plus ce monsieur qui parle, on a l'impression qu'il est le porte-parole d'un certain nombre de choses, il est un peu matrixé, d'un certain nombre d'éléments de langage qu'on entend du côté de la France insoumise. Et il s'en vient nous dire, oui, on racialise, je ne sais même pas ce que ça veut dire, on racialise, peut-être qu'il voulait dire qu'on considère mal les racisés, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Enfin, tout de suite, il arrive sur les discours de haine, l'extrême droite, etc. Et en fait, on s'aperçoit bien que le discours d'une partie de la gauche intersectionnelle et autres, et que certains écologistes et la France insoumise, infuse auprès d'un certain nombre de gens qui s'en servent ensuite pour nier le réel. Ensuite, juste d'un mot, je voulais revenir sur ce que vous disiez les uns les autres sur le rôle des collectivités locales et sur le rôle des maires écolos ou de gauche. Je suis d'accord sur le fait que ça empire les choses. Mais enfin, à ma connaissance, la droite ne fait pas beaucoup
mieux. Monsieur
Houdin, qui est maire de Toulouse, la situation, quand on a vu le palmarès des villes les plus insécuritaires du monde, elle n'est pas brillante non plus avec Monsieur Houdin. Monsieur Godin a été maire de Marseille pendant des décennies, je crois même qu'il a été maire pendant 20 ans, regardez dans quel état il a mis Marseille au plan de l'urbanisme, au plan de l'insécurité. Je pense qu'on sera tous d'accord ici autour de la table pour constater effectivement le lien entre immigration et délinquance. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, la politique migratoire, elle est fixée au niveau national. Par conséquent, les maires, les élus locaux, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc si même l'un d'entre nous était demain élu maire d'une grande agglomération comme Nantes, comme Toulouse, comme Bordeaux, que sais-je, eh bien, on n'aurait pas tellement de prise, à part mettre du bleu dans les rues, mettre des caméras de vidéosurveillance, toutes ces choses-là qui sont éminemment marginales par rapport à la déferlante migratoire qui est voulue d'en haut. Et effectivement, une immigration de masse, non contrôlée, non assimilée, non intégrée, qui va vivre dans un
voulu,
certain quartier
déferlante,
sans mixité.
Voulue,
oui, bien sûr, organisée politiquement par le grand patronat allemand, par le MEDEF en France, par les mondialistes de tout poil depuis des décennies. Derrière, les élus locaux, si vous voulez, vous avez beau avoir
la bonne
volonté
du monde,
c'est difficile quand même.
Pourquoi ? Avec Paul Melun, parce que je pense que les maires ont... ont un rôle très important. D'abord, une précision, Jean-Marc Ayrault, il a été maire pendant 23 ans.
Oui, je
excusez-moi.
Vous allez en laisser sa part, vous avez compris.
Mais qu'elle a été élue en 2014, Madame Roland.
Oui.
Donc, elle ne débarque pas de nulle part.
Non, mais Jean-Marc Ayrault, j'ai dit 12-15 ans, il a été maire pendant 23 ans. Mais non, je pense que les maires ont un rôle très important.
Lequel?
Vous avez en France des mairies qui affiche, par exemple, je connais bien la ville de Strasbourg, ville bienveillante et d'accueil de toutes les populations, notamment les migrants, etc. Donc,
c'est d'accord,
je suis
ça.
Désolé, vous avez des maires qui ont la faculté de diminuer ou d'augmenter très fortement
et de diminuer
les populations.
Comment ils peuvent diminuer, les maires, le nombre d'immigrés qui arrivent
En ne soutenant pas, en termes de subventions, des associations d'accueil qui vont
là, leur, c'est de
les aider. Oui, mais enfin, l'aggravation, elle est importante.
Non, mais globalement, la répartition des immigrés sur le territoire, c'est pas du ressort et des prérogatives du maire.
C'est souvent
le maire, il a un pouvoir de police administrative, mais
non, c'est souvent une coopération avec des élus locaux, avec des associations. Et très honnêtement, je pense que les maires ont une vraie faculté. Voilà. Et puis après, en termes de sécurité, il y a un autre point que je voulais dire et qui est une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas à Nantes. Comme ça ne marche pas à Lyon.
Non, mais j'ai envie de vous dire, donnez-moi où ça marche. C'est je ne veux pas noircir le tableau, mais vous, est-ce que vous avez des villes qui sont préservées complètement?
Ça marche pas mal.
Voilà,
Et pourquoi? Parce qu'il y a une coopération. Mais parce qu'il y a une coopération quotidienne entre les polices municipales et nationales. Et vous n'avez pas des maires adjoints qui vous disent
c'est
ah non,
c'est pas
là, la sécurité,
c'est
bien plus profond.
Franchement, moi je me demande, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des logiques d'appropriation de territoire au-delà de faits divers, de chroniques de faits divers? Vous allez réagir. Écoutez juste quand même, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les agressions, mais enfin, il n'y a plus, je veux dire, il n'y a même plus le minimum d'humanité, agression aussi de malvoyants, de personnes en situation de faiblesse. On l'a vu évidemment à Cannes avec cette vieille dame qui a été agressée par trois jeunes gens, trois jeunes délinquants plutôt, et écoutez à ce sujet sur l'agression d'un malvoyant.
Erwan, bonjour. Alors vous aussi, vous avez envie d'intervenir, vous êtes malvoyant, et vous aviez envie de dire quoi?
Je me suis fait agresser trois fois déjà, en deux mois à peine. Et bon, j'en ai un peu marre. On me fait comprendre que si je peux reconnaître mes agresseurs, ça serait bien. Sauf que je suis malvoyant. Et voilà, au bout d'un moment, on a même un peu peur de sortir. J'habite Saint-Miel.
Juste derrière, en fait, c'est ça?
Et bah, ça commence, ça y est. On m'a agressé là-bas. Ils étaient trois. Donc, voilà.
On vous a agressé en journée, on vous a agressé la nuit. Et on vous a agressé pourquoi, en fait?
Je fais quelques photos. Bon, je suis malvoyant, je fais quelques photos. Bon, bref. Et il était 21h30, 22h. J'ai fait quelques photos près de l'Erne. Et là, les gars m'ont agressé assez sauvagement. Je me suis... Ça va que je me laisse pas faire, mais...
Et l'objectif, c'était quoi? Vous prendre votre appareil photo? C'était vous prendre de l'argent? C'était quoi?
Bah, au début, c'était de l'argent. Et puis après, vu qu'ils voyaient que je faisais des photos, enfin, que je faisais quelque chose avec mon appareil, ils ont voulu prendre mon appareil photo. Il y en a un qui est arrivé par derrière, qui m'a mis un coup par derrière, je ne l'ai pas entendu. Ça m'a
assommé
un peu, et puis j'en ai vu un autre qui arrivait, et là j'ai couru, je l'ai poussé, et puis je suis rentré vite fait chez moi, parce que 3 contre 1...
Bien, on va continuer à égrener les différentes prises de parole, ces séquences dans l'émission de Jean-Marc Morandini, tout simplement parce qu'elles montrent aussi que ce n'est pas, la réalité vue par certains médias, c'est la réalité vécue par les habitants au gré justement de la démarche de Jean-Marc à travers les rues de Nantes. Jean-Marc, vous êtes avec nous en direct, merci sur CNews. Il y a eu d'abord, je voudrais qu'on en parle, cette séquence édifiante, Jean-Marc, avec le premier adjoint à la mairie et la maire introuvable tout au long du reportage chez elle.
Effectivement, alors c'est assez surréaliste parce qu'elle savait qu'on venait, ça a été annoncé sur l'antenne de CNews, ça a été annoncé partout. Nous, on avait contacté la mairie avant, bien évidemment, en se disant il faut qu'on rencontre la mère, il faut qu'elle vienne avec nous. C'est pas tous les jours quand même qu'une chaîne nationale vient faire une heure et demie de direct dans sa ville. Donc on s'est dit, elle va être là, et finalement, vous l'avez vu, la mère est introuvable. On a été obligé d'aller sonner, on a été obligé d'aller la chercher. Et quand on dit où est la mère, on ne nous répond même pas. C'est-à-dire, elle n'est pas là, c'est juste ça la réponse. Alors que honnêtement, normalement, les plannings des maires, les plannings des élus doivent être publics. Là, non. La maire, juste, elle n'est pas là. Et c'est un jour pourtant qui est agité dans Nantes, parce qu'en plus, et ça, on l'a croisé juste à l'instant, il y a la grande manifestation qui est cette fois contre la vie chère qui est là. Donc voilà, Nantes est une ville qui est sous pression aujourd'hui. Il y a des forces de police qui ont été mobilisées. Donc la maire devrait être là. La maire n'était pas là. C'est le premier adjoint, vous l'avez vu, qui est descendu de la mairie et qui nous a parlé.
et qui vous a parlé avec une séquence un peu tendue. En tout cas, il y a eu un échange qui a inspiré beaucoup de nos invités ici en plateau et qui niait le lien. Il ne s'agit pas de faire un amalgame grossier, mais parfois un lien entre immigration et délinquance avec un trafic de drogue qui est extrêmement présent. Sur ce sujet-là, Jean-Marc, c'est un déni, c'est un aveuglement.
Ah, c'est un déni total, hein, vous l'avez entendu. C'est vrai qu'en plus, c'est pas nos chiffres à nous à CNews. C'est Gérald Darmanin avait expliqué il y a quelque temps que dans des villes comme Marseille, il y avait 50% de la délinquance qui était liée à l'immigration. Et ici à Nantes, ben voilà, ce serait un peu le petit village qui résiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, a priori, entre l'immigration et la délinquance. Et ça paraît totalement surréaliste. Et c'est pour ça que je lui disais à un moment à cet adjoint qu'on est dans l'idéologie politique, là. C'est-à-dire qu'on a décidé à la mairie qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Et quand on parle des migrants qui viennent, quand on parle du fait que Nantes est une ville ouverte, là aussi c'est pareil. En fait, il y a un déni total. Le seul constat qui est fait, c'est qu'il y a du trafic, il y a de la drogue. Et quand je lui explique ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on vous a montré à l'antenne, c'est-à-dire qu'il y a des caméras de sécurité, et juste en bas, vous avez le deal, en bas des caméras de vidéosurveillance. Et ça se fait en toute impunité. Vous dites, ah ben oui, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? La police enquête. Et puis, un autre moment qui était fort, je pense, c'est quand on a couru derrière la police municipale avec cet agent qui a accepté de nous parler, et merci à lui, et qui nous a dit, ben oui, effectivement, à minuit, ben, la police municipale, elle rentre chez elle. Le dimanche, il n'y a pas de police municipale et on n'est pas armé. Alors, lui dépend de la mairie, donc effectivement, il ne peut pas trop en dire. On a compris à demi-mot ce qu'il est en train de nous dire. Quand je lui dis, est-ce que vous voulez être armé ? Lui nous dit, ben, oui, on veut être armé, mais c'est le choix de la municipalité. Donc, on est dans un choix politique, on est dans un choix idéologique.
Et Jean-Marc, pour conclure, ce n'est pas la première fois que vous réalisez ce format d'émission. Vous êtes déjà déplacé à plusieurs reprises. La particularité, c'est que vous êtes dans les rues d'une ville. Vous êtes dans les rues d'une ville, d'une grande ville. La journée, vous rencontrez, j'allais dire, les badauds, les citoyens, les commerçants. C'est quand même assez édifiant de voir cette délinquance, cette insécurité qui s'installe dans les rues des villes. Nous ne sommes pas en périphérie, nous ne sommes pas dans des quartiers éloignés du centre-ville.
On est en plein centre-ville de Nantes, hein, vous l'avez vu, en plus pour ceux qui connaissent Nantes, ils ont reconnu les rues dans lesquelles on est né, on était, et puis il y a ces commerçants qui en ont assez, et ces commerçants qui sont menacés, on les a menacés si jamais ils venaient parler de l'insécurité. Excusez-moi, on est en 2022, on est en France, Nantes est une ville française, et on dit aux commerçants, si jamais vous parlez à la télé, si jamais vous venez raconter ce qui se passe dans la ville, on va venir chez vous, on va casser les devantures, etc. Et bravo et encore un grand merci à ces commerçants qui ont accepté de parler, que ce soit cette dame qui avait un restaurant ou cet opticien. Vous avez vu, l'opticien nous dit « j'ai peur aujourd'hui parce que je vous parle ». C'est ça la réalité de la vie ici.
Merci à eux et merci à vous, hein, Jean-Marc, d'avoir répondu et d'avoir réalisé évidemment cette émission qui nourrit beaucoup de commentaires, qui suscite beaucoup, beaucoup de réactions. On va avoir l'occasion de continuer à en parler. Merci Jean-Marc et à très vite,
merci,
évidemment, sur CNews. Bon, on va écouter. Jean-Marc vient de parler de cette séquence. Je voudrais qu'on la diffuse, cette séquence avec les policiers, et puis on va continuer à en parler juste après la pause. Mais d'abord, la séquence, et restez avec nous. Regardez.
Le climat est compliqué puisqu'on a peur. Pas tous les jours, hein, mais on a peur de plus en plus, plus régulièrement. Et aujourd'hui...
Allez-y,
je vais continuer.
Parler,
et donc aujourd'hui...
On va avancer peut-être, ouais. Allez-y.
Donc aujourd'hui, effectivement, il va être temps de mettre en place des choses. Bon là, vous voyez, là, la police arrive maintenant, police peut-être arrive. Parce que vous êtes là.
On voit que la police... La police municipale, c'est la police municipale qui est en train d'arriver, parce qu'ils ont peut-être vu où on était, et ça leur a fait envoyer deux camions de police qui sont en train d'arriver.
Donc, effectivement, ils viennent. Ils viennent tous les jours. Hein. Ils se positionnent là, ils vont se mettre au croisement, ça va faire partir les gens. Ils partent, ça revient.
De l'insécurité à Nantes, j'allais dire dévoiler, non, mais montrer à l'occasion de l'émission de Jean-Marc Morandini. Vous êtes très très nombreux à réagir. On va continuer à en parler avec nos invités, mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est CNews Info avec Audrey Berthaud.
La réforme des retraites ce matin, Olivier Dussopt a confirmé qu'Emmanuel Macron n'exclut pas une dissolution en cas de censure à l'Assemblée. De son côté, Elisabeth Borne annonce un nouveau cycle de concertation dans la perspective d'adopter un projet de loi avant la fin de l'hiver pour une réforme qui entrerait en application à l'été 2023. La Russie va entériner demain l'annexion de territoires qu'elle contrôle en Ukraine. Ce sera lors d'une cérémonie au Kremlin où Vladimir Poutine prononcera un discours volumineux lors de cet événement, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence russe. Enfin, une quatrième fuite a été identifiée au-dessus des gazoducs Nord Stream. L'OTAN a dénoncé des actes de sabotage délibérés, inconsidérés et irresponsables. Les fuites ont provoqué d'importants bouillonnements, vous le voyez, de plusieurs centaines de mètres de large, ce qui rend impossible dans l'immédiat des inspections des ouvrages.
Nos caméras, les caméras de CNews à Nantes avec Jean-Marc Morandini pour écouter tout simplement les habitants, les commerçants, ceux qui ont des responsabilités, soit syndicales, soit au niveau de la mairie. Alors pas la maire elle-même qui était très occupée au moment du reportage qui était malgré tout annoncé depuis des jours et des jours, mais madame le maire, madame la maire, ça dépend, Johanna Roland était très occupée à ce moment-là. On a beaucoup de séquences dont on est en train de parler, Jonathan Sixou. Quand même, l'avis global. Nous avons entendu tout à l'heure le premier adjoint dire que ce sont les médias, en partie certains médias, dit-il, qui en sont en train d'agiter la peur. Et en même temps, on a les habitants qui ont été filmés depuis ce matin qui disent « mais c'est insécure pour nous, on a peur ». Et là, j'ai beaucoup de témoignages qui me disent « mais même les chauffeurs de taxi, quand vous allez à Nantes, vous disent « attention à vous, attention de ne pas sortir le soir, attention à votre enfant, votre fille ou votre femme ». Cette distorsion entre les deux.
Madame le maire a parlé quelques minutes hier parce qu'il y a eu quand même un acte assez grave d'un grand adolescent qui s'est fait tirer dessus en plein centre-ville par des types qui sont partis après sur un scooter volé. Elle a dû comprendre qu'il fallait quand même se montrer et qu'il fallait quand même parler. Et que nous a-t-elle dit à cette occasion? En gros, et c'est le même discours qu'on entend à Lyon, par exemple, ça rejoint la responsabilité municipale que nous évoquions tout à l'heure concernant la police. En gros, nous, on fait ce qu'on peut, voire ce qu'on veut. Et si ça ne va pas bien, c'est à l'État de venir avec sa police nationale et l'État ne le fait pas.
C'est facile. Quand ils ont besoin de l'État, quand il y a évidemment.
Exactement. Et on voit comment on détourne l'attention, on fait voter des budgets délirants pour des bêtises idéologiques qui partent dans tous les sens. En revanche, pour ce qui est... Là, le premier adjoint nous disait à Jean-Marc Morandini que depuis 2014, il peine à trouver 200 policiers municipaux et qu'ils en sont à 160, 180. C'est ahurissant. Je veux dire, dans toutes les grandes villes, parce que Nantes n'est pas une petite ville, c'est pas un village, trouver des personnes qui ont les compétences, qui ont la mentalité nécessaire, c'est-à-dire aussi le courage physique pour être policier municipal, c'est trouvable. Donc c'est un discours fait d'utopie, de mensonge, et ça réduit malheureusement l'honnête citoyen en chair à pâté quand il sort de chez lui. Et on voit que c'est quelque chose qui va se reproduire tant que ces personnes-là seront toujours dans la même position, oui, et continueront d'approfondir le même sillage.
Police municipale, il y a aussi évidemment la question des caméras de vidéosurveillance. J'ai l'impression que ça fait 40 ans, à peu près, même plus, hein, mais enfin, de le cas que nous en parlons, disons 20 ans. Regardez quand même cette séquence et ce dialogue de sourds à ce sujet, encore aujourd'hui.
Comment vous m'expliquez que ce matin, le deal se fasse devant les caméras?
Mais est-ce que vous croyez que vous et moi, ou la police municipale, va aller arrêter des dealers?
Boulot
de la...
Ça fait partie du boulot.
Ça fait partie du boulot de la police, de la justice.
C'est pas le boulot de la police municipale d'arrêter les dealers.
En fait, il y a des enquêtes qui mènent aux trafiquants, et ensuite, ils sont arrêtés, jugés en justice, mis en prison,
donc,
etc.
Ils peuvent dealer tranquillement en ville,
les caméras. Mais évidemment que non.
Mais ça se passe.
Mais les caméras, elles les enregistrent pour qu'on puisse aussi les arrêter.
Enfin, tous les gens nous disent que c'est en permanence.
La caméra aide la police. Mais franchement, est-ce que vous croyez qu'un élu se ferait plaisir de voir des...
Non, mais il laisse faire. Ça fait plaisir. On peut laisser faire. Tous les gens qu'on a rencontrés nous disent on laisse faire.
Non,
regardez.
Ça vous arrange de dire ça parce que ça génère de l'audimat. Ce que je comprends.
Je vois pas pourquoi une interview génère de l'audimat.
Ah, si, sinon vous ne seriez pas venu. Non, pas la mienne.
On est venu pour parler aux gens. On est venu pour parler aux Nantais et pour les entendre.
Concrètement.
Et pour parler à la maire, mais elle n'est jamais dispo.
Elle est dispo, vous inquiétez pas, elle est sur les terrains, dispo pour les Nantaises et les Nantais. Sur le terrain, je ne vais pas vous donner son agenda, ce n'est pas votre...
L'agenda, il est public, non? L'agenda de la maire n'est pas public?
Alors, je vous réponds à la question initiale que vous aviez posée. Première conférence de presse en 2014 sur la question de la sécurité. Elle a fixé un plan et le plan est en train d'être mené sur le mandat 2014 et sur le mandat 2020. Les recrutements de policiers municipaux, objectif x2, le démarrage de l'installation des caméras de protection qui permettent d'arrêter les trafiquants que vous évoquiez tout à l'heure, que ce soit dans le centre-ville ou que ce soit dans
les...
Oui, mais la justice fait son travail petit à petit.
Ils sont complètement rattrapés par là. Non, mais c'est triste pour les habitants, c'est triste pour les commerçants, c'est triste... pour d'ailleurs tous les Français, quelle que soit leur origine, qui souvent, alors là, pour le coup, c'est la double peine. Très souvent, on parlait hier justement d'Alençon, Paul Melun, et on disait, mais les voitures brûlées, ce sont les voitures de qui, à votre avis? Ce sont bien ceux sûr. Qui se lèvent très tôt le matin et qui vont travailler, qui n'ont jamais fait d'histoire.
Absolument, c'est pour ça qu'il est déplorable qu'une dame qui est maire socialiste, donc de gauche par définition, d'une ville comme Nantes, ne soit pas la première à s'indigner de l'insécurité et de la violence qui gangrène sa ville. Parce que, de fait, l'insécurité et la violence, elles touchent davantage des gens qui, eh bien, ont un petit commerce ou qui prennent les transports en commun que des personnes qui vont avec des voitures avec chauffeur, comme l'équipe municipale de Nantes, ou avec des taxis, ou qui vivent dans des quartiers extrêmement protégés. De fait, l'insécurité touche toujours les plus pauvres. Et ça, c'est un grand point noir de la gauche aux affaires, et là je vous rejoins, dans les grandes villes, parce que la gauche aux affaires dans les grandes villes, idéologiquement, si je puis dire, n'est pas programmée pour recevoir ce genre de choses. Si demain, la maire de Nantes, par exemple, Johanna Roland, réalisait qu'il y a de la violence dans sa ville et que peut-être 50% de la violence dans cette ville est générée par l'immigration, en tout cas par des immigrés illégaux, là, probablement qu'elle ferait un peu erreur 404. Parce que si vous voulez, ça fait des décennies qu'elle provoque et qu'elle engendre l'immigration massive idéologiquement. Par conséquent, ça nécessiterait qu'elle-même revoie son propre logiciel intellectuel et que son vivre ensemble qu'elle appelle de ses voeux et qui ne marche absolument pas est un échec. Et ça, c'est très difficile. C'est presque un prisme psy, si vous voulez, c'est psychologique. C'est très dur de l'admettre.
Vous parlez, ça, ce sont les deux voitures de policiers qui sont arrivées au moment de l'interview. Et c'est vrai, Jean-Marc en parlait de manière... C'est-à-dire qu'au moment où les caméras de CNews sont arrivées, il a pu filmer un point de deal, tout simplement, et en direct, en plein jour.
C'est parfois le rôle de ces véhicules quand ils sont mis en statique. Moi, je connais très bien Bordeaux. Il y a une place à Bordeaux, la place de la Victoire, qui est assez insécurisée et assez insécurisante. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a souvent un camion de police. Les policiers, ils sont fermés à clé à l'intérieur parce que, la situation est quand même dangereuse aussi pour eux. Mais leur présence vise à une espèce de dissuasion qui marche très mal, en fait.
Oui, parce qui est une parenthèse. Qui est
une petite parenthèse enchantée, 20 mètres autour. Et vous allez dans une rue adjacente, c'est pas possible.
Parce que CNews a suivi, c'est important aussi d'insister sur le travail, malgré tout, de ces policiers et de ces CRS, une unité de CRS, là, que l'on a suivi sur le terrain, justement, dans la ville de Nantes. Regardez vraiment les différentes séquences, ça va nourrir votre débat.
Allez, c'est parti.
C'est la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès-France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS 8 sont présents pour aller au plus vite au contact.
Alors, l'objectif, c'est qu'on puisse rapidement mettre en place des appuis de manière à ce que l'ensemble des personnels investiguent le quartier, arrivent directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de deal, ce qui était le cas là actuellement.
La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on aimerait bien qu'elle soit 24 sur 24.
En permanence.
En permanence.
Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants, mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans une ville où le sentiment d'insécurité s'installe.
Alors, le sentiment devient réalité, mais c'est ça, la dissuasion, c'est-à-dire qu'on cantonne, là pour l'effet de dissuasion, alors que je rappelle, ils sont une cible, c'est-à-dire la dissuasion porte une cible sur son uniforme.
La dissuasion, ça ne va pas être de mettre une unité de CRS dans toutes les places, vous parliez de Bordeaux, on peut citer toutes les grandes villes de France, on ne va pas mettre une unité de CRS en permanence sur tous les lieux. Non, moi le vrai problème, et c'est je trouve le moment le plus intéressant de l'émission de Jean-Marc Morandini, c'est justement ce problème d'avoir un point de deal au-dessus d'une caméra. Parce que c'est là la dissuasion. Si la caméra servait à informer soit la police municipale, soit la police nationale, les policiers tout simplement les plus proches, du moment où il y a deux personnes qui font un trafic de deal pour une intervention la plus rapide possible et qu'avec les caméras on puisse les suivre et les interpeller, là, le sentiment d'impunité zéro commencerait à diminuer. Donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et moi, ce que je regrette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est tellement important, c'est que l'absence de coopération entre les polices municipales et nationales...
Mais je pense qu'on n'est plus là.
Mais si, parce que moi je pense,
imaginez un point de deal en dessous, mais c'est
non, parce que je pense,
regardez-nous, on est là, on va continuer demain. Vous imaginez l'affront?
Ma conviction la plus intime, c'est que tant qu'il y aura une impunité sur les incivilités les plus perçues comme étant les plus légères, c'est-à-dire le petit trafic de deal, tant que celui-ci sera toléré, surtout sous des caméras, c'est-à-dire grosso modo devant tout le monde, eh ben ça, on ne pourra pas lutter contre les trafics plus importants parce que ça en est le premier point.
Oui, le petit délit qui entraîne.
Voilà. Ça commence dans les municipalités.
Ça montre aussi une évolution donc des mentalités. En gros, on ne se laisse plus faire, on n'est plus intimidé, on n'a plus peur de caméras,
de
vidéos.
C'est une appropriation du territoire.
Et ça montre, c'est ça, c'est une appropriation du territoire.
Bah, il faut la
casser. Ça montre cette évolution néfaste et funeste des mentalités. Et je pense que c'est ça aussi qui inquiète les riverains, quelle que soit la ville. On pointait l'horreur de l'agression d'un malvoyant à Nantes. Et c'est ce caractère de déshumanisation aussi qui frappe toutes les villes de France et toutes les agressions désormais.
Comment faire une fois qu'on a dit ça? Parce que par exemple, l'agression de Cannes, c'est pour moi le symbole d'une déshumanisation. Absolument. Mais est-ce que ces jeunes sont encore... On peut avoir quelque chose en commun avec une société.
C'est là où il m'arrive de répéter cela, malheureusement. On parle souvent de territoires perdus de la République. Moi, je m'inquiète aussi et surtout des individus, des esprits perdus de la République. Parce que je ne vois pas, quand on agresse à 10 un copain de classe, quand on se jette à 2 sur une vieille dame de 90 ans, ou quand on frappe par derrière un aveugle, je ne sais pas, quand on a 15 ou 16 ans, je ne sais pas ce qu'on devient, comment on se réhumanise,
oui,
si on peut se réhumaniser.
Quand vous avez la nationalité française,
aujourd'hui, à vous offrir.
Passer par la casse prison, s'endurcir, s'enorgueillir d'avoir fait cela et ressortir encore plus caillou.
On sait que la prison est l'école de la radicalisation aussi.
Il y a une des nouveaux... Alors juste pour les caméras de surveillance, rappelez-vous nombreuses voitures brûlées, de policiers brûlées dans une banlieue parisienne, c'est une voiture qui surveillait une caméra de surveillance. Donc la police qui surveillait une caméra de surveillance qui était à chaque fois attaquée à la voiture bélier. Donc on voit très bien que l'impunité est roi dans en France aujourd'hui. La nouveauté, quoi, ce qu'on redécouvre, c'est que c'est plus en périphérie, c'est dans les centres-villes. Mais en fait ça découle d'une idéologie, ça découle d'une politique notamment de gauche. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a une responsabilité locale de gauche, parce que une partie de cette gauche-là a voulu imposer un vivre ensemble. A voulu imposer un vivre ensemble, c'est-à-dire tout en refusant l'assimilation, en imposant une mixité.
La droite avait la même expression,
oui,
à la bouche.
Bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais il y a une idéologie derrière. Et le moyen, c'est quoi? C'est les logements sociaux. Regardez les logements sociaux qui sont en partie dans les centres-villes, qui habitent dans les logements sociaux et à qui ils sont attribués. Je me rappelle d'un maire de Paris, je crois que c'est le Tibéri, le maire de 5e, qui m'expliquait qu'il faisait des quotas dans ses logements sociaux. Voilà. Sauf qu'il faut pouvoir les assumer et de faire des quotas. En disant, voilà, j'ai besoin d'une mixité, on va en faire une vraie, je vais compter. Il comptait les boîtes à lettres, et il disait, on t'enlève, on va te mettre là. Voilà. Et malheureusement, dans ces villes-là, où tout le monde sait que les logements sociaux ne sont pas attribués, sont toujours attribués à des réseaux communautaires. Donc forcément, et c'est ce qui se passe à Lyon. La Guillotière à Lyon, je le rappelle, est un pont.
Donc ce
de la
qu'on a
place
fait dans les banlieues, les quartiers périphériques, on est en train de le refaire à vitesse grand V dans les centres.
On veut on dit le vivre ensemble. Oui. Le vivre ensemble, c'est pas l'assimilation, c'est l'inverse de l'assimilation. C'est justement venez comme vous êtes. Exactement. C'est le multiculturalisme. Et le problème de ça, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans cette logique-là, que le réel vous frappe à la tête. Comment voulez-vous faire pour renier tout ce que vous avez fait?
Je ne sais pas, parce que là, ça va être très compliqué pour Madame le maire. Qu'est-ce qu'elle va faire d'ailleurs?
C'est une vraie question. C'est contre nature.
Elle va appeler au secours Gérald Darmanin.
Oui, elle va probablement solliciter l'État parce qu'elle est pour combler ses propres défaillances. Mais l'honnêteté m'oblige à soulever un point qui est de dire, pour prolonger votre analyse, Arthur, que les habitants de Nantes ont élu cette dame, comme ils ont élu Pierre Urmic à Bordeaux, qui est un écologiste, Grégory Doucet à Lyon. Par conséquent, les habitants...
Massive,
je sais, mais il y a quand même... Non, mais il y a quand même
un
aspect sociologique qui est très important, un grand basculement sociologique. Là, c'est un grand remplacement politique qui est en train de se mettre en place, et sociologique. Ouais. C'est que les nouveaux habitants de ces grandes métropoles sont, pour certains d'entre eux, des Parisiens expatriés qui eux-mêmes ont fui Paris... Exact. Son insécurité, sa saleté, ce saccage permanent de nos rues, et qui sont allés s'installer, qui à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse ou que sais-je, pour ensuite réimporter ce qu'ils ont eux-mêmes fui. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils vont finir ces gens-là, peut-être au Cap-Ferré, à Saint-Paul-de-Vence, à Saint-Émilion, au Touquet, je ne sais pas. Mais en tout cas, les grandes villes moyennes
alors,
vont
eux,
devenir
ils ont les moyens
terribles.
De
mais ces gens-là ont toujours les mêmes
choses. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Arthur, qui est très important au niveau du logement social. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix délibéré, mais pas que des villes de gauche, de l'État également. Ça date de la loi d'Allo, d'attribuer en priorité les logements sociaux, effectivement, à des phénomènes communautaires, aux plus démunis, c'est-à-dire ceux qui n'avaient vraiment aucun travail. Et qu'est-ce qui s'est passé, la conséquence ? C'est que toutes les classes moyennes, tous ceux qui font tenir la société, les infirmiers, les enseignants, tous les corps intermédiaires qui font vivre notre pays, ceux qui se lèvent tôt le matin, ils se sont retrouvés mis dans des logements sociaux, eux-mêmes dans les périphéries, très très loin des centres-villes. C'est-à-dire qu'on marche complètement sur la tête. On a priorisé des publics les plus défavorisés, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne veulent pas se socialiser. Et tous ceux qui font vivre le pays, on les a renvoyés dans les fins fonds des banlieues. Et résultat, ça a contribué au phénomène de délinquance et de violence.
Quel est le sujet majeur dont on parle ? La réforme des retraites.
Non, en fait, évidemment.
Vrai sujet.
Vous trouvez ? Bah, ça, c'est une vraie question. Débat permanent depuis, alors là, combien d'années ? Je ne sais pas.
Les Français
sont préoccupés par l'insécurité, le pouvoir d'achat.
On l'aborde mal, mais on a raison de l'aborder.
Mais... probablement, oui, vous avez raison.
C'est-à-dire que de mandat en mandat, les présidents successifs font tous la réforme des retraites.
Oui, mais alors,
est-ce qu'à
un moment, il faut faire une hiérarchie des urgences ? À l'hôpital, je ne veux pas noircir le tableau, mais rien ne va. À l'école, il y a quand même quelques soucis. Sur le plan de la sécurité, il y a des problèmes.
La justice ?
La justice, le pouvoir d'achat, on y est. Mm-hmm. Est-ce que la réforme des retraites, c'est l'urgence des urgences ? Mais c'est une question que je pose, soit dit en passant. En tous les cas, Emmanuel Macron va jusqu'à dire qu'il n'exclut pas une dissolution en cas de censure à l'Assemblée. Bon, vous l'avez donné la réponse. En réalité, son quinquennat est à l'arrêt et que s'il ne fait pas cette réforme-là... Voilà.
Pour moi, c'est vraiment l'orgueil du président de la République. Il a échoué sur son premier quinquennat. Il se dit, si je ne fais pas passer cette réforme, j'apparaîtrai comme un président qui n'a pas su réformer le pays. Et donc, pour lui, il est prêt, à mon avis, à mettre tous les Français dans la rue. Sa réforme, il la fera.
Oui, mais pendant ce temps... est-ce que vous entendez autour de vous des gens parler de la réforme des retraites ? Très sincèrement.
De fait, non, mais si vous voulez, ça illustre une fois encore.
On ne parle que de pouvoir d'achat, que de la Russie, qui est une vraie inquiétude liée au pouvoir d'achat, la sécurité, mais alors les retraites, ou alors je ne fréquente que des gens qui n'ont pas envie.
Pour vous répondre très clairement, c'est marquant quand le sujet peut être abordé, mais vous savez que vous cassez l'ambiance si à table vous dites allez, parlons des retraites, par exemple. Mais vous vous rendez compte.
La guerre en Ukraine et la sécurité, c'est pas
beaucoup
mieux.
Vous vous rendez compte que la réponse qui fuse bien souvent de la part de jeunes et de relativement moins jeunes, c'est de dire ah, mais moi, de toute façon, j'aurai jamais la retraite, je cotise pour les autres, mais moi, je n'aurai pas. La retraite. Voilà aussi un certain état d'esprit qui...
Non mais le sujet des retraites en soi n'est pas très important au sens précis de la réforme. Par contre, ce qui est quand même très important, c'est la façon dont on finance.
On sait ce matin qu'on va consulter, mais on ne sait pas sur quoi.
Non, vous avez raison. Mais moi, j'ai lu, je suis très studieux, j'ai lu l'interview de Gabriel Attal dans le JDD dimanche.
Ah, t'as un garçon sérieux.
Oui, mais je travaille mes dossiers. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que M. Attal va nous dire maintenant qu'il est à Bercy sur cette histoire de réforme des retraites ? Et effectivement... Il est là où il n'a pas tort, c'est qu'il place le sujet de la réforme des retraites comme un sujet de financement public, du financement du budget de l'État.
Dites-moi, est-ce que vous emportez les gens quand vous vendez une réforme sur le plan budgétaire ?
Absolument.
Mais parlez de l'avenir. Dites qu'il faut vraiment qu'on ait un contrat de génération.
Vous prêchez un convaincu, mais ça nécessite de revoir notre appréciation.
Si vous dites, écoutez, le rapport du corps dit qu'il y a une urgence. D'ailleurs, le rapport du corps, le conseil d'orientation, il dit dans 3 à 5 ans. Vous savez qu'une réforme, pour qu'elle infuse, on n'appelle pas sur un bouton.
Une partie du déficit, parce que vous savez, encore une fois, si on regarde tout ce qui est géré par les corps intermédiaires, par le privé, fonctionne. Et tout ce que l'État a récupéré petit à petit se retrouve en déficit et ne marche pas. Mais il y a deux sujets intéressants. C'est qu'un, les retraites et le pouvoir d'achat sont liés, parce que les retraités ne peuvent pas demander une augmentation de salaire. Et quand vous avez une inflation de 6%, la perte, ils la sentent. Et ensuite, sur la réforme des retraites, là où il y a un vrai sujet qui est politique, c'est qu'on ne parle jamais d'une politique de natalité. Quand on parle de réforme des retraites, alors que c'est fondamental. Et la politique de natalité est une politique qui va beaucoup plus loin qu'une simple réforme des retraites. Là, on parle vraiment d'avenir et c'est jamais abordé. Donc le problème,
pourquoi c'est jamais abordé ?
Parce que le problème, c'est que Hollande et donc Emmanuel Macron ont quand même détricoté toute la politique de natalité française, notamment sur la fin de l'universalité des allocations. Donc ça, il y a et après l'autre sujet évidemment, c'est le sujet politique, c'est que le 49-3, ça peut pousser une autre solution. Il y a des solutions, ça peut lui donner un prétexte pour dissoudre une assemblée qu'il ne peut plus gérer. Et en même temps, il met un coup de pression sur les LR parce que les seuls qui peuvent vraiment payer la dissolution.
C'est les LR.
C'est les LR.
Oui, mais une question majeure.
Même s'il y a le 49-3, Elisabeth Borne nous a dit que cela se fait en concertation.
Vraiment, c'est majeur à vous poser. Est-ce que vous utilisez un sèche-linge ?
Ah.
Moi non.
Non mais ça me
moi j'utilise un tankerville. Un tankerville, c'est un étendoir pour ceux qui.
Et donc tu utilises un radiateur.
Ah vous avez un grand espace.
Ah oui.
Parce qu'il faut.
Mais je le mets dans mon jardin au besoin. Je précise que j'habite en province, alors c'est plus facile.
Ah oui voilà.
Donc je mets dans le jardin au besoin avec des pinceaux.
Parce que vous portez sur la tête.
Ou sinon je le mets dans une buanderie.
Non mais on en rigole. Mais la sobriété énergétique qui est un vrai sujet, Regardez comment il est abordé par. Je veux dire, la classe politique, en tout cas par certains. Écoutons Gilles Legendre, le même qui nous avait dit que la pensée était très complexe, qu'il fallait de l'intelligence pour comprendre certains sujets.
Il est très brillant, monsieur Legendre.
Ah oui, brillant.
Et surtout subtil.
Il faut montrer l'exemple, il faut expliquer. Moi, ça y est, par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge, on étend le linge. Honnêtement, ce n'est pas très compliqué à faire. Eh bien, chaque Française, chaque Français doit trouver le moyen qu'il a et qui est en effet... pas douloureux du tout. On ne demande pas aux gens de renoncer définitivement à regarder la télévision. On ne leur demande pas de vivre dans le noir. On dit simplement que quand une pièce est inoccupée et qu'on éteint le courant, ça y est, les 10%, ils sont tout prêts. Donc c'est ça qu'il faut faire.
C'est dommage qu'on en rigole parce que le sujet est sérieux. Alors cette phrase, on a décrété ma femme et moi, voilà comment ça se passe. Bah, chérie.
C'est génial de savoir comment ça se passe. Mais vous savez ce que ça représente aussi, cette sortie qui est assez calamiteuse. Ça représente le degré, le stade d'infantilisation dans lequel on veut absolument nous maintenir. Et cela va en parfaite contradiction avec autre chose, c'est les appels à la responsabilité dont on nous martèle en même temps. C'est-à-dire qu'on vous dit... soyez responsables, coupez l'électricité, etc., etc. Et de l'autre, on vous dit, écoutez-nous, parce que vous ne savez pas comment
faire. Non, mais il y a une certaine logique. Pendant le Covid, on nous apprenait à nous laver les mains.
Quelqu'un que
vous
connaissez bien, parce qu'il participe à l'émission, qui me dit, vent, brosse à dents électrique.
Très peu utilisé.
Très peu utilisé.
La brosse à dents électrique n'est pas bonne pour les dents. Ça, c'est une bonne raison de ne pas l'utiliser. Mais pas pour des raisons
écologistes. Qu'est-ce qui reste de bon, dites-nous, entre la sobriété énergétique, ce qui n'est pas bon pour la santé, ce qui est...
Je ne sais pas ce à quoi on va avoir droit.
Là, ce qui est, en fait,
la lecture, on va marquer une pause. Laurent Berton, blacklisté dans pas mal de médias. Hein. Mm-hmm. Alors son livre s'arrache, il sort aujourd'hui, mais déjà sur Amazon, etc. C'était lui qui avait théorisé la France orange mécanique. Je ne sais pas si vous connaissez la saga qu'il a écrit. Premier tome, c'était Le jour où tout s'embrase, Le temps des barbares. Et aujourd'hui, c'est Guérilla, fiction ou anticipation. On va en parler. Merci à vous, restez avec nous dans quelques instants.
Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de la vente limogène à quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau.
Midi News Direct, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on reprend le fil de nos débats avec un livre dont on va beaucoup parler et qui est déjà en rupture de stock. Le voici, Guérilla de Laurent Berton, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chère Nelly.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, la Russie qui va entériner dès demain l'annexion de territoires qu'elle contrôle en Ukraine. Ce sera à l'occasion d'une cérémonie au Kremlin. Et le porte-parole de la présidence russe assure que Vladimir Poutine prononcera alors un discours volumineux, je le cite, pour cet événement. On en vient à la réforme des retraites. Elisabeth Borne annonce un nouveau cycle de concertation dans la perspective d'adopter un projet de loi avant la fin de l'hiver. Et ce matin, Olivier Dussopt a confirmé qu'Emmanuel Macron n'excluait pas une dissolution en cas de censure à l'Assemblée. On va l'écouter.
Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Et les Français trancheraient et diraient quelle est la nouvelle majorité qu'ils veulent. Et évidemment, nous rappellerions et nous serions en campagne pour que le président soit conforté.
Sachez en outre que plusieurs manifestations ont lieu aujourd'hui un peu partout en France à l'appel de différents syndicats, des manifestations pour les salaires et contre la réforme des retraites. Ainsi, à Nantes, que vous apercevez sur ces images. On en vient aux agressions contre les médecins qui sont en augmentation. C'est le constat en tout cas de l'Observatoire de la sécurité des médecins. Malgré des solutions apportées par le gouvernement, rien ne semble avoir changé. Des médecins qui sont obligés de se protéger par leurs propres moyens. Écoutez à ce propos le président du syndicat des médecins libéraux.
Il faut absolument que le ministère prenne cela à bras le corps de façon à stopper net cette escalade que l'on voit là depuis plusieurs mois. Donc en solution, on a notamment un bouton d'appel qui serait en direct avec le commissariat local. On a la vidéosurveillance. On a la plainte qu'on pourrait déposer sur Internet parce que vous savez que tous les médecins sont surbookés et donc aller perdre 3 heures pour aller déposer plainte au commissariat, Beaucoup ne le font pas. Nous, aujourd'hui, il faut qu'un acte, ferme, définitif, très rapide, qui soit appliqué à toute agression de médecin. Et ça passe pour nous par de la prison ferme. Moi, j'appelle le gouvernement à saisir cette question et à être exemplaire. Parce que les médecins font preuve de santé publique, ils se dévouent pour leurs patients, ils travaillent souvent de nombreuses heures et ils n'ont pas à subir une agression physique dans leur cabinet.
Une nuit un peu plus paisible à Alençon, dans l'Orne. Il y a tout de même eu quelques tirs de mortier depuis un immeuble qui avait été refait à neuf. Aucun membre des forces de l'ordre ne se trouvait à proximité à ce moment-là. Les auteurs de ces tirs n'ont pas été retrouvés. Le dispositif a été levé aux alentours de 2h du matin. Et puis un peu plus loin de nous, des nouvelles du puissant ouragan Ian qui balayait dès hier les côtes de Floride. Ces vents violents, ces pluies torrentielles ont d'ores et déjà causé des inondations catastrophiques et des coupures de courant généralisées. La mise en image est signée Sibyl Delettre.
C'est une ville transformé en lac en quelques heures à peine. À Fort Myers, en Floride, le niveau de l'eau est monté de près de 3 mètres par endroit. Les rues ont été balayées par des trombes d'eau, mais aussi par des rafales de vent qui ont atteint les 240 km/h. Ces arbres n'ont pas résisté. Dans cette ville voisine, les mêmes images. Les habitants sont secourus alors que l'eau leur arrive déjà à la taille. La caserne des pompiers a, elle, dû être évacuée après s'être retrouvée noyée sous les flots.
On a un problème avec le camion. On a dû le sortir du garage.
Depuis hier, près de 2 millions de foyers sont plongés dans le noir. L'ouragan Ian serait l'un des 5 ouragans les plus forts ayant jamais frappé la Floride, selon le gouverneur Ron DeSantis. Ian poursuit maintenant sa route dans les terres. S'il devrait s'affaiblir, les Carolines du Nord et du Sud, ainsi que la Géorgie, sont déjà en état d'alerte pour les prochains jours.
Voilà pour l'essentiel avant de retrouver Sonia et ses invités pour le débat. Un mot de sport.
Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
Sector, no limits.
Après la claque reçue à Toulouse en championnat, le PSG s'est rassuré en Ligue des Champions hier soir dans la salle de Magdebourg. Victoire chez le champion d'Allemagne 29-22. L'homme du match, c'est Yannick Green, portier parisien en feu face à ses anciens coéquipiers avec 47% de réussite. 4 joueurs ont marqué 5 buts, dont l'arrière international Elohim Prandi. Deuxième victoire consécutive dans cette phase de groupe pour Paris avant de recevoir Zagreb mercredi prochain.
Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
Sector, no limits.
Merci d'être avec nous. Midi News, la suite avec Frédéric Durand. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Maître Maxime Thiébaut nous accompagne.
Bonjour Sonia.
Merci d'être là. Bonjour à vous Maxime. Paul Melun qui est essayiste, président de Souverain Demain. Et Laurent Oberton, merci de nous faire l'amitié d'être là. Bonjour à vous.
Plaisir, bonjour.
Écrivain, essayiste, alors... présente plus vos différents ouvrages. Évidemment, vous aviez théorisé la France orange mécanique. Et on en parlait tout à l'heure, je disais combien cette expression a été au centre du débat public et politique pendant des années. Les politiques se sont écharpés, fallait-il dire France orange mécanique? Est-ce la réalité ou est-ce que ça suscite ou ça excite les peurs, comme on dit? Bien, vous êtes revenu avec une saga qui a un très grand succès, avec 3 tomes, Le jour où tout s'embrasa, Le temps des barbares, et voici celui-ci, on le voit à l'écran, Guérilla. Je le disais, Laurent Oberton, c'est aussi bien pour les auteurs quand il y a cette forme de succès, cette reconnaissance, il est déjà en rupture de stock.
Oui, Amazon a complètement explosé aujourd'hui. C'est le jour de la sortie et c'est vrai qu'il est très attendu. Le premier tome est arrivé en 2016, le second en 2019. Et mes lecteurs voulaient absolument savoir à quelle sauce on allait être mangé, puisque c'est quand même notre histoire, l'anticipation de ce qui pourrait nous arriver. Et c'est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, on parle ça dépasse un petit peu le col roulé. On parle de pénurie alimentaire, de crise énergétique. L'insécurité commence enfin à faire vraiment les gros titres. On ne peut plus nier qu'il y a d'énormes problèmes dans ce pays. Donc ça recoupe complètement en fait ce livre qui semble être une réalité parallèle. Mais en fait, moi, je pense qu'il est plus proche de la réalité que ce qu'on peut voir sur la plupart des autres plateaux télévisés aujourd'hui.
Alors, c'est la grande question parce que tout commence en tous les cas par une banale descente dans une cité. Ça se termine mal. Il y a des jeunes gens qui sont visés, qui sont abattus par un policier. Effondrement, embrasement du pays. 27 jours de survie plus tard, avec des jours qui sont vraiment scandés, que vous racontez, etc. L'ordre semble enfin de retour. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, la crise semble sous contrôle. Tout rentre dans l'ordre, mais en réalité, rien n'est réglé. Pire, les ferments véritablement d'une forme de guérilla sont là. Alors c'est la question, parce qu'on lit ce roman véritablement comme on regarde un film, un thriller, fiction ou anticipation?
Anticipation, c'est très difficile à anticiper justement, parce que j'ai l'impression que les choses s'accélèrent et qu'il est très difficile de prédire. On me reproche souvent une certaine caricature de personnages politiques, par exemple. Mais par exemple, si j'avais inventé le coup du col roulé ou du sèche-linge, on m'aurait dit « tu exagères ». Mais non, c'est déjà le cas, la communication politique est très loin, je pense, de saisir la réalité de ce qui est en train de se passer dans ce pays, notamment en matière, encore une fois, d'insécurité. Les tabous persistent. J'avais écrit Orange Mécanique il y a 10 ans de cela, et absolument rien n'est réglé. La justice est toujours dans le même état, et les problèmes s'aggravent. Les records de violence aux personnes, de violence sexuelle ont été battus, les records historiques, absolus. Le ministère de l'Intérieur, ce sont ses propres chiffres. Donc sous Gérald Darmanin, sous Emmanuel Macron, ces records ont été pulvérisés. Le nombre d'homicides dans ce pays a atteint son taux le plus haut depuis les attentats de 2016. Les escroqueries sont énormes, les vols et les cambriolages remontent. Donc rien ne va. Et à un moment, si on continue à ne pas le regarder en face, on arrivera à un scénario comme celui-là.
Avec toujours le même débat rhétorique sur les mots, c'était il y a quelques temps, c'était sur l'ensauvagement, je le disais, sur la France Orange Mécanique encore aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre, et quand quelqu'un le dit, il est accusé évidemment de jouer le jeu de l'extrême droite. Vous pensez que ces expressions aujourd'hui, évidemment les gens, les habitants les vivent, qu'elles sont rentrées un petit peu plus dans le dialogue habituel, ou au contraire que ça reste des mots tabous, proscrits?
Alors, dans la population générale, je constate que ces expressions existent et qu'elles sont même, pour le coup, celles que j'emploie sont très modérées, que vous pouvez me croire. Quand vous assistez au procès, par exemple, de l'attentat de Nice, que vous apprenez que certains jeunes qui étaient là ont dansé autour des victimes, se sont pris en photo avec elles en s'amusant, il est très difficile de ne pas parler de barbares, de sauvages, de termes de cette nature, parce que c'est réellement ce à quoi on a affaire. Et ne pas nommer les choses, comme disait l'autre, c'est ajouter beaucoup de malheur au monde. Il est temps, je pense, de stigmatiser une bonne fois pour toutes des individus qui se mettent comme ça hors de notre société, hors de tout référentiel culturel commun, avec lesquels simplement on peut envisager de vivre.
Quand vous racontez là ce qui s'est passé autour de l'attentat, on est dans la barbarie, on est hors de l'humanité, on est hors de la civilisation. La question qu'on se pose, c'est « et après ?» Que voilà. Faire avec ces individus?
C'est une très bonne question, et la justice a décidé pour l'instant de ne pas répondre, parce que la seule réponse judiciaire qui est apportée aujourd'hui à ça, on la connaît, c'est la 24e chance, la 25e, la 26e. On voit que le code pénal n'est pas du tout appliqué. Je vous donne un exemple, dans Nice ce matin, j'ai lu ça il y a 2 jours, un individu de 33 ans qui a déjà passé 11 ans en détention, qui en est à sa 21e condamnation, il bénéficie d'un aménagement de peine, agression sexuelle sur une lycéenne. Le code pénal dit, pour ce type d'agression aggravée, c'est 10 ans, les réquisitions c'est 4, dont 2 avec sursis, et le verdict c'est 1 an, donc 4 mois de sursis. Et comment la famille, la victime qui a porté plainte, peuvent entendre un tel message de la justice, se dire dans quelques semaines, il a sa 24e chance, et il dit lui-même au procès, je suis irrécupérable.
Mais que répondez-vous au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, il y a quelques jours? Il dit non, il y a une forme de... on joue avec les faits divers, on agite les peurs. Il dit que non, c'est têtu, il n'y a pas de laxisme. Chiffre à la pluie, il vous oppose, il oppose à beaucoup d'autres la réalité qu'il croit en tous les cas.
Alors malheureusement, il faut faire l'effort de se rendre sur son ministère, justement, de vérifier les statistiques du ministère de la Justice qui sont disponibles à tout le monde, et de constater, vous prenez votre code pénal, ou même vous allez dans une audience, vous prenez votre code pénal et vous voyez les peines encourues. Et quand quelqu'un est jugé pour, je ne sais pas, un viol, c'est écrit 15 ans de prison ferme dans le code pénal, la peine requise en moyenne va être de 10 ans, la peine prononcée de 8, la peine appliquée, vous pouvez la diviser par 2 puisqu'elle est remise de peine, puisqu'il y a maintenant les aménagements de peine en plus. Et au bout du compte, la loi n'est pas appliquée dans ce pays. Et la petite minorité criminelle endurcie très peu d'individus font la criminalité grave, dangereuse de ce pays, là, les violences aux personnes, les agressions sexuelles. Si elle était mise hors d'état de nuire, comme le prévoit la loi, si la loi était simplement appliquée, on vivrait beaucoup mieux dans ce pays. Ça, c'est une certitude.
On va continuer à évoquer tout ce qu'il y a dans ce livre, hein, tout ce qui sépare la France fictive que vous décrivez du quotidien. Et malheureusement, il y a beaucoup de rapprochements à faire. Je vais donner la parole à tous nos invités. Simplement une chose, parce que nos téléspectateurs ont été interpellés par la couverture où l'on voit l'incendie de Notre-Dame qui nous a tous saisis. Et puis, on voit cette ombre avec une capuche qui pointe une arme sur la cathédrale Notre-Dame. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette image, par ce montage?
C'est un des personnages du livre. Oui. Donc, c'est dans ce genre de situation où, en fait, nous sommes des créatures très domestique, très habitué à l'État, à vivre dans une situation de dépendance d'à peu près tout. On le voit avec l'énergie, avec l'alimentation, avec notre propre sécurité. On dépend complètement d'organismes qui nous dépassent. Et si il advenait une situation comme celle que je décris, si l'État venait à s'effondrer, on serait livré à nous-mêmes et nous aurions les instincts les plus barbares qui seraient délivrés par ça. Il suffit d'une coupure de courant dans une ville moderne aujourd'hui, d'une grève de la police, et vous voyez que tout le monde va piller les magasins et que c'est l'anarchie complète. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer aussi, que les terroristes et autres individus peu recommandables vont s'en donner à cœur joie à ce moment-là.
Ce que je retiens dans ce que vous dites là, finalement, je ne sais pas si vous me rejoindrez sur l'emploi du mot. Est-ce que l'on peut parler, selon vous, moi c'est peut-être le mot que j'emploierais, de décivilisation? Parce que j'ai l'impression, si vous voulez, que peu à peu, et vous parliez à juste titre de la justice, mais au-delà même de la procédure de justice, est-ce que finalement ce processus de décivilisation qui passe, il y a quelques décennies, on en a beaucoup parlé, par la déconstruction, par ce qui en est aujourd'hui un avatar qui est le wokisme, donc par le fait de défaire tout ce qui a fait l'Occident et la France depuis des siècles et des siècles, ça c'est un premier point. Ensuite l'immigration de masse, non assimilée, non intégrée, pas contrôlée. Eh bien est-ce que tout cela finalement, est-ce que les conséquences funestes de tout cela, à savoir ce processus de décivilisation, ne sont pas là aussi une forme de robinet que l'on pourrait couper si on souhaitait agir? Parce que la justice, effectivement, est très importante. Mais enfin, j'ai l'impression, si vous voulez, une sorte de tonneau des Danaïdes où, finalement, on essaie d'agir, et c'est une sorte de cercle vicieux. On a beau essayer d'agir sur les conséquences, tant qu'on ne traite pas les causes une bonne fois pour toutes, eh bien, on sera condamné à remplir nos tribunaux, puis nos prisons, etc., etc.
Mais je suis d'accord. En fait, il y a un renoncement général de ne serait-ce que de regarder les problèmes en face et d'envisager d'appliquer des solutions nettes, radicales, fortes sur ces problèmes-là. C'est très clair, on préfère pour l'instant ne pas condamner des coupables, des criminels, et ça revient à condamner des innocents, clairement, mais il y a cette volonté idéologique de le faire, de continuer comme ça. Il y a sur la population, sur les médias, les lanceurs d'alerte, le poids de ce chantage permanent à l'extrême droite, aux heures sombres, etc. Voilà. Moi, je peux vous dire que j'ai défait ma carrière avec mon premier livre, La France Orange Mécanique. Il n'était plus possible d'être journaliste dans un simple quotidien local après ça, parce qu'il y a ce poids de la désignation, de l'ostracisme, de l'exclusion. Vous avez forcément des pensées, des arrière-pensées nauséabondes, etc. Faites le jeu de on sait qui. Et donc, on ne peut pas en parler. On ne peut pas parler des victimes, on ne peut pas parler des coupables, donc on ne peut pas avancer. Tant que ce tabou sera en place, ne sera pas brisé, la situation ne peut pas évoluer.
Une question d'ailleurs, est-ce que vous êtes reçu partout pour la promotion de votre livre ou est-ce que, votre sourire en dit long?
Je ne cache pas que je n'ai pas encore reçu d'invitation de France Télévisions, du service public et de certains médias comme ça. J'espère, moi je vais partout où on m'invite, si Libération m'appelle, me donne une tribune.
Et ouvert au débat, à la confrontation des points de vue, des idées.
Moi je suis complètement pour, je veux interdire personne, mais malheureusement je constate que la réciproque n'est pas toujours vraie.
Est-ce que vous considérez que c'est un lanceur d'alerte?
Oui, c'est un lanceur d'alerte et le titre veut tout dire. On débattait encore dernièrement avec le ministre de la Justice sur la question de la privatisation de la justice. Et le terme guérilla veut tout dire, c'est-à-dire que la guérilla, ce sont des groupes privés qui se combattent les uns les autres, c'est-à-dire l'absence d'État capable de garantir l'ordre public. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de soulever dans le livre que je n'ai pas encore lu, mais c'est cette question, comment l'État disparaît, cette disparition est concomitante en fait à la décivilisation dont parlait Paul à l'instant, c'est-à-dire comment ce qui fait notre socle, ce qui fait qu'on se prive d'une partie de notre liberté pour vivre ensemble, pour ce bien commun, c'est ce contrat social à la Rousseau, comment cette chose-là est en train de disparaître, avec tout simplement le fait que l'État est absent. Alors il est absent par la justice, vous l'avez très bien dit, mais moi pour connaître beaucoup de magistrats en tant qu'avocat, c'est pas trop les magistrats qui sont problématiques, c'est surtout les moyens qu'on leur donne. Par exemple, un juge d'instruction, il a en moyenne une demi-journée à consacrer à un dossier, une demi-journée. Quand le dossier fait 100 pages, il n'a pas le temps de le traiter. La justice n'a pas les moyens, quand vous voyez l'indignité de nos prisons, la situation dans laquelle les prisonniers sont mis dans ces prisons, enfin les prisons pour mineurs sont horribles, moi je ne comprends pas dans un état civilisé qu'on puisse connaître des prisons si indignes, pourquoi on ne construit pas des prisons ? Pourquoi on a une politique publique qui est aussi réduite sur la justice quand il s'agit de s'attaquer ?
Là, vous êtes en train de dire que tous les éléments finalement de ce scénario noir sont là.
Mais ils sont là, et le pire, c'est qu'ils s'expriment de jour en jour. Il y a 30 ans, un gendarme, quand il allait sur le bord de la route, des fois, il oubliait de prendre son pistolet. Parce qu'il se disait, je vais voir papy, mamie, je vais contrôler deux, trois voitures. Aujourd'hui, il sort avec son arme, des fois avec des armes lourdes, et il met un gilet pare-balles. Ça montre, en fait, que ce phénomène de guérilla s'installe. Les pelotons de surveillance d'intervention de la gendarmerie, qui existaient plus ou moins avant, ont été développés les 20 dernières années, et aujourd'hui, ils apprennent à être les militaires à faire des guerres urbaines. Donc oui, il y a une guérilla qui s'installe dans ce pays.
Ce qui est, je vais vous laisser réagir tout de suite, Frédéric Jean, c'est que en fait, d'une étincelle, c'est un château de cartes qui tombe, et c'est la rapidité avec laquelle la déliquescence, en tous les cas, se lit, alors dans votre livre, et pourrait se voir sous nos yeux. Évidemment, personne ne l'espère, hein, vous n'êtes pas pour ce scénario.
Non, justement.
Quand on dit roman d'anticipation, vous n'écrivez pas pour qu'il se réalise, vous écrivez pour alerter.
Pour le conjurer, en espérant que si on le voit écrit, il ne se réalisera justement pas.
Frédéric Durand, comment vous réagissez à ces alertes ?
Moi, je ne partage pas ce pessimisme absolu.
Lucidité ou pessimisme ?
Voilà, non mais lucidité peut nous rendre pessimistes. Hein. Il n'y a pas de contradiction entre les deux termes. Simplement, moi je pense, et encore moins une volonté délibérée que ça se passe comme ça, ce que vous sembliez subodorer en disant on a fait un choix idéologique. Et je pense par ailleurs que l'idéologie en pareille matière ne nous est que de très faibles secours. En réalité. Pourquoi ? Parce que je pense que 98%, et on va le constater dans tout ce qu'on verra à la télé tous les jours, de nos problématiques sont liées à quelque chose d'extrêmement rationnel, d'extrêmement organisé, qui s'appelle le trafic de drogue en France. Voilà. Je ne réduirai pas à tout ça, parce qu'il y a des violences intrafamiliales, des violences sexuelles, des agressions, etc., qui disent aussi des choses sur une autre société qui se barbarise d'un certain point de vue. Il y a une explosion de 12% de la délinquance, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc là, il n'y a pas de matière à discuter sur une augmentation ou pas. Simplement, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus rationnel à la base. C'est-à-dire, moi, je regardais les sujets avant que je vienne et les sujets qu'on va aborder encore, vous verrez que tous, ou quasiment tous, sont liés à une économie parallèle, qui est le trafic de cannabis. Lequel trafic de cannabis ? On a choisi, là, pour le coup.
Il n'y a rien de culturel, il n'y a rien de civilisationnel, il n'y a rien de...
Non, je me permets... je vais finir, parce que vous avez 5 millions de consommateurs en France, vous trouverez toujours une population délinquante pour satisfaire à ces 5 millions de consommateurs, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur culture, leur origine, etc. Donc voilà la réalité. Et là, effectivement, on a choisi de ne pas régler ce problème-là. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on pense qu'en essayant de le régler, on créerait plus de tort qu'on en réparerait. Ça, c'est une réalité. Et moi, je suis pour qu'on mette sur la table ce débat-là jusqu'au bout. Voilà. Et parce que après, on peut toujours se gargariser d'idéologie, de culture, de tout ce qu'on veut.
Je veux juste comprendre. Quand il y a eu la France Orange Mécanique, vous vous souvenez tous des débats qu'il y a eu. Nous, quand on faisait les interviews et qu'on prononçait même...
Vous parlez du déni.
Mais plus que ça. C'était tabou, c'était extrême droitisation. C'était donc un mot... vécu, parce que quand on décrit certaines situations, si c'est pas la France...
Mais on a des chiffres.
Sonia,
prenons juste un exemple concret, je le fais un peu sous la forme d'une question. Lorsque cette dame de 90 ans se fait agressée, qu'elle manque de mourir par deux mineurs et qu'on l'attaque dans le dos, est-ce que c'est en lien avec le trafic de drogue ?
Je disais que c'était lié à 90%.
Absolument pas. Les 10%, les chiffres made in, je sais pas où.
Mais en tout cas, moi je vous dis que si on réglait le trafic de drogue en France, on réglerait le grand partie du problème.
Là où le mot orange mécanique prend, je pense, son sens, mais je veux pas parler à votre place, c'est quand on regarde le film de Kubrick, ce qu'on voit, c'est la barbarie à visage humain. Et on pourrait imaginer, même si je ne suis naturellement pas pour, on pourrait imaginer un trafic de drogue qui serait non pas apaisé,
mais en tout cas qui viserait pas à faire le chaos, la barbarie, mais la violence, mafias, tous contre tous, mais seulement
la mafia marseillaise,
par exemple Al Capone ou je sais pas.
Exactement.
Quoi.
Exactement. Ah, voilà. Il y avait un code d'honneur. Non, mais il y avait un code d'honneur.
Il y avait une espèce de code d'honneur qui s'agissait de ne pas rouer de coups un gamin par terre à 10 contre 1 et de le tuer quasiment.
Mais dans le roman, là, je pense.
Bah, je ne sais pas. Mais enfin, cette succession de faits divers, quand même.
On va continuer à en parler. En tout cas, ça suscite le débat, c'est ce qui est intéressant. On va continuer à en parler. On va marquer une courte pause. Mais tout d'abord, justement, avant cette pause, regardez, parce qu'on va en parler juste après. Jean-Marc Morandini était à Nantes tout à l'heure. Il a discuté avec de nombreux habitants, riverains, des commerçants, etc., qui lui parlent de cette insécurité chronique. Et regardez l'échange avec le premier adjoint à la mairie sur le lien entre immigration et délinquance.
Sur la question des migrants, puisque vous posez la question, moi, je ne vais pas tortiller. Faire l'amalgame entre les migrants et la délinquance, c'est une honte. En revanche, considérer que quand il y a trafic de drogue, il y a aussi trafic d'êtres humains qui projettent un certain nombre de jeunes gens, comme peut-être ceux que vous avez vus tout à l'heure, qui sont là pour vendre ce que les trafiquants de drogue internationaux apporte sur ce territoire et sur le territoire européen en général, oui, ça peut arriver.
Le nombre de migrants dans la ville n'est pas un problème.
Et ça ne concerne pas le. Vous connaissez le nombre de migrants. Moi, j'ai pas de chiffres précis là-dessus.
C'est dommage. Et que vous travaillez la mairie. Moi, j'y travaille pas.
Mais la mairie, elle gère pas le fait de délivrer des papiers ou de ne pas délivrer des papiers, etc. Vous le savez, on est en République. En France, les frontières et la délivrance de papiers et en particulier tout ce qui concerne la question des réfugiés politiques ne relève pas de la mairie. Vous le savez, on le sait tous les deux. Donc, en revanche, je ne nie pas le fait que le trafic de drogue qui se fait à l'échelle internationale, a pour l'un de ses leviers, c'est aussi le trafic d'êtres humains.
Vous dites, Nantes, c'est une des rares villes en France, visiblement, où l'insécurité n'a pas de lien avec les migrants.
Est-ce que j'ai dit ça?
Il y a un point d'interrogation.
L'insécurité est liée en grande partie à la question du trafic de drogue. D'accord. Ce que vous avez vu, j'imagine, tout à l'heure, sont liés au trafic de drogue. Le trafic de drogue est aussi génère aussi du trafic d'êtres humains pour pouvoir projeter les dealers qui viennent vendre.
Ma question était sur les migrants, sur le fait que Nantes a été longtemps une ville ouverte et le reste encore une ville ouverte aux migrants. Pour vous, il n'y a pas de lien, parce que c'est la première chose, je crois, que vous m'avez dite. Il n'y a pas de lien entre migrants et insécurité.
J'ai dit que l'amalgame, est-ce que vous faites l'amalgame entre tous les migrants d'une part et tous les délinquants de l'autre?
Vous savez bien que non.
Donc on dit la même chose.
Merci d'être avec nous. On continue de parler de ce livre « Guérilla » de Laurent Oberton. Alors, Laurent Oberton, visionnaire ou décliniste? C'est la question. Est-ce que c'est à la manière d'un Welbeck en soumission vous alerter, ou est-ce que c'est noir et non pas votre tenue aujourd'hui, je ne fais pas référence à cela, il n'y a plus d'espoir. Elle est en noir, mais elle a toujours de l'espoir, c'est Audrey Berthaud, les titres.
Les prix élevés du gaz et de l'électricité font peser un risque imminent pour la survie de milliers d'entreprises. Avertissement de Business Europe, une organisation représentant le patronat européen. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, l'association réclame notamment un assouplissement du cadre des aides d'État aux entreprises en difficulté. Le Mondial 2022, la vaccination contre le Covid ne sera pas obligatoire pour les spectateurs au Qatar. Ils devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays, et les personnes arrivant au Qatar ne seront également pas tenues d'effectuer une quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal. Enfin, en 2021, le nombre de naissances est reparti à la hausse après 6 années de baisse. Information de l'INSEE, l'Institut relève notamment que les conceptions d'enfants se sont accélérées au sortir de chaque confinement lié au Covid. En 2021, 742 100 bébés sont nés au total.
Merci à vous, Audrey, la suite de cette émission. Et quand vous sortez de la lecture, vous ressortez de la lecture de ce livre, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire si ça se passe véritablement? C'est la vraie question. Et puis, visionnaire ou décliniste, comment vous-même vous considérez, Laurent Oberton?
C'est difficile à dire. Oui, pathologiste, écrivain dystopique peut-être.
Ah, dystopie, oui. Dystopie, pourquoi?
Oui. C'est-à-dire qu'on est, on nage un peu aujourd'hui dans une forme d'utopie puisqu'on refuse de voir ces problèmes. C'est-à-dire qu'avant, le romancier, il allait chercher les gens dans leur réalité, il les emmenait dans un monde fictif. Et là, maintenant, on fait le contraire. On va les chercher dans leur monde fictif où ils sont pour l'instant dans un état de confort et d'aveuglement relatif, et on leur met le nez dans ce qui se passe. Donc ça, le métier a évolué. Et je ne sais pas si moi je suis spécialement pessimiste ou noir ou déclinologue ou que sais-je. J'essaie justement d'avertir, d'essayer de faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Mais donc ça demande la douleur de regarder tout ça en face.
À travers la fiction, parce que rappelons-le, la France Orange Mécanique était un travail de de journaliste, un travail journalistique. Là, la forme fictive permet plus de dire de choses, selon vous ?
Bah bien sûr, on peut mettre en scène le quotidien, la réalité vécue, ressentie de la population, bien plus qu'avec des données chiffrées, impersonnelles. Moi, c'est souvent ce que je reprochais à la presse quand j'y travaillais, c'est-à-dire que les faits divers, on s'est tellement habitué à la banalité de lire un viol, une agression sexuelle, qu'on ne mesure pas derrière les souffrances vécues, ressenties par énormément de nos concitoyens. Je parlais tout à l'heure des chiffres du ministère de l'Intérieur, donc, c'est-à-dire les plaintes déposées, constatées. On était à 220 violences sexuelles par jour dans ce pays. Il faut imaginer que à peu près 10% des femmes agressées portent plainte. Donc ça vous laisse une idée de l'ampleur de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, sous notre nez. Et il n'y a pas le scandale politique, médiatique, qu'une telle situation mérite.
Alors c'est très intéressant parce que vous dites faits divers. Comment vous les liez, ces différents faits ? Il y en a un que je voudrais vous soumettre, si je puis dire, avec nos invités. Ça s'est passé dans une cité de Villetaneuse. C'est une mère et sa fille qui ont été agressées au couteau par 3 individus. Ça s'est passé chez elle. En fait, la mère a ouvert la porte pensant qu'il s'agissait d'un livreur. S'en est suivi un déchaînement de violence. Regardez justement ce sujet qui est préparé par Sybille Delettre et Florian Paume.
Les faits se sont produits dans une cité de Villetaneuse, samedi soir, vers 21h. Pensant ouvrir à un livreur, une mère de famille se retrouve nez à nez avec 3 individus au visage dissimulé, qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups.
Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de la vente limogène. À quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau. Je peux vous montrer mon bras.
Sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son tour frappée et poignardée. Si aucune piste n'est écartée pour l'instant, cette agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôlent les accès à la cité.
On a peur, quand on passe devant eux, on a le cœur qui bat 100 000 à l'heure, on en tremble. J'ai le brevet, je n'ai pas raté mon année, mais j'y vais à contre-cœur. Carrément, à la dernière heure de cours, j'ai envie qu'il y ait une autre heure de cours, juste pour ne pas rentrer chez moi.
Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un communiqué.
Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place au sein de notre ville.
Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes. Et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier.
Et voilà, chez elle, hein, à la maison.
Oui, ça c'est tragiquement intéressant, si je puis dire, parce que si vous voulez... On le voit au seuil de sa porte aujourd'hui, on est en danger. On le voit, il suffit de déambuler dans les rues d'un certain nombre de grandes villes en France pour voir que jadis il y avait des pots de fleurs aux fenêtres et que maintenant il y a des barreaux. Que jadis on regardait par l'œil de Judas et puis on ouvrait la porte, maintenant il y a des systèmes avec des digicodes, avec des caméras. Donc pourquoi tous ces gens font cela ? Alors si on écoute l'adjoint au maire de Nantes ou Madame Roland, ça va être parce que les gens regardent trop CNews. Absolument pas, c'est parce que les gens, ils vivent en société, tout simplement. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que ces actes-là se répétant, c'était un peu les travaux, vous savez, de Régis Debray, qui nous faisait l'éloge des frontières et qui nous expliquait que du moment que l'on abaissait les frontières au pourtour de notre pays, voire au pourtour de l'Europe, quand on voit comment Frontex est une passoire, eh bien, on crée des frontières du coin de la rue. Et donc, effectivement, les gens se mettent en risque, en danger, comme cette dame âgée à Cannes qui était dans le parc de sa résidence. Voyez. Et donc, toute personne maintenant qui vit dans un certain nombre d'endroits, de villes, de grandes villes, et ça s'étend de jour en jour, peut être mis en danger comme ces personnes au seuil de sa porte.
Oui, ce qu'on vient de voir me donne raison, moi, à deux titres. Un, c'est que là encore, c'est si j'ai bien compris, le résultat de trafic de drogue. C'est-à-dire que, apparemment,
oui,
c'est une...
C'est pas le trafic de drogue qui a agressé au couteau la mère.
Ce sont les trafiquants, oui.
Oui, oui.
Ce sont les trafiquants de drogue qui ont agressé au couteau. Et là, il n'y a pas de question identitaire ou culturelle, puisque si j'ai bien compris l'accent aussi de ceux qui témoignaient, on était pas dans une problématique culturelle du tout. Non, mais je le dis, parce que je dis et je répète que ce sont... Non, mais juste, c'est pour ça que moi, je dis que l'idéologie ne nous est pas d'un grand secours en pareil cas, et je le répète, je crois que ce sont...
C'est l'idéologie de faire... Emmanuel Macron avait fait un lien lui-même en disant qu'il peut y avoir un lien entre immigration et délinquance. Il l'avait fait lui-même, je m'en souviens.
Mais moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Je dis faire de l'idéologie ne nous est pas d'un grand secours.
Je ne suis pas d'accord.
Voilà. Et je voudrais finir. C'est Et là, la gauche est bien mal inspirée de ne pas s'approprier cette question de façon pleine et complète, parce que ce sont les classes populaires qui sont les premières victimes, je le dis et je le répète à chaque fois, mais c'est une réalité. Or, les classes populaires devraient intéresser la gauche. Et le besoin de sécurité, c'est à peu près quelque chose de général et d'éternel. C'est-à-dire que toutes les sociétés demandent, ou que vous les preniez aux politiques, d'assurer avant toute autre chose leur sécurité, ce qui est bien normal.
Mais Frédéric, je suis d'accord sur le fait que ce soit la source, le trafic de drogue, de cette violence. Oui. Mais de s'attaquer à une mère de famille, c'est un problème culturel. C'est un problème de transmission de valeurs. C'est là aussi que réside
l'essentiel. C'est un problème d'éducation, c'est pas un problème culturel.
Mais la culture, c'est les savoirs qu'on transmet. Ce n'est rien d'autre. La culture, elle est vivante. Sinon, elle n'existe pas. Le fait de ne pas transmettre des valeurs comme le respect de la personne humaine, le respect d'une maman, le respect de l'autre, ces enfants-là sont dépourvus de valeurs. Sont dépourvus de valeurs pourquoi? Parce qu'ils tombent aussi dans le trafic de drogue. Bon, si c'est une facilité pour pouvoir gagner de l'argent. On est d'accord. Il y a un problème d'emploi aussi. Ok, mais tous les gamins qui aujourd'hui souffrent de la paupérisation d'une absence de boulot ne tombe pas dans le trafic de drogue. Étonnamment, bien sûr. C'est souvent lié avec des jeunes issus de l'immigration et qui n'ont pas eu une éducation qui leur transmette des valeurs de respect. C'est quelque chose qui est vraiment lié. Mais je voulais rebondir sur le fait que vous disiez tout à l'heure que vous étiez pessimiste. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui ont un petit peu raison garder sont définies comme pessimistes. Sauf que le pessimisme, c'est ce qui permet quand même l'espérance. Quand vous êtes optimiste, comme le sont un peu les membres de notre gouvernement, vous tendez à la naïveté parce que vous dites tout va bien, tout ira bien, donc il n'y a pas de raison de regarder la réalité. Donc au contraire, je pense qu'aujourd'hui, la mère de l'espoir, c'est le pessimisme. Et vous avez raison à travers votre ouvrage de faire preuve de pessimisme, parce que si les gens ne le sont pas, ils ne se réveilleront pas.
Mais Laurent Bertrand, juste une question. Vous écoutez les débats que nous avons, et heureusement qu'ils sont avec des bords opposés. Il y a une confrontation respectueuse et tout à fait saine. Vous n'avez pas l'impression parfois que ce sont des débats que vous écoutez depuis des années,
si, non mais bien
sans
sûr.
Faire du tout offense à nos invités, au contraire, hein, ils ont des arguments nouveaux. Non, mais
et le débat sur la drogue, moi j'entends plutôt les responsables publics.
Non, c'est les problèmes qui sont permanents, c'est pas nos débats. Ouais.
Les responsables publics ont plutôt tendance à penser que justement les trafics tiennent les cités sensibles parce que les trafiquants ne veulent pas de désordre. Sinon, s'il y a du désordre, il n'y a pas de trafic. Et Marseille, apparemment, d'après les pouvoirs publics sur place, on est très prudent justement avec ces réseaux organisés parce qu'ils empêchent justement les manifestations. Les clients qui sont agressés, ils ne reviennent pas, donc ce n'est pas possible. Et ceux qui agressent les clients, je peux vous dire qu'ils finissent très très mal.
Mais on va perdre. On va perdre ce combat parce qu'on a une réforme de la police judiciaire qui est terrible. On va départementaliser la police judiciaire. Je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, mais la départementalisation de la police judiciaire, elle va être terrible parce qu'elle va empêcher pour les parquets de pouvoir travailler sur...
Est-ce que c'est encore de l'ordre de la police et de la justice? C'est pas du tout pessimiste.
C'est des moyens.
Écoutez, c'est une vraie question. Quand vous parlez des trois jeunes qui ont attaqué la vieille dame à Cannes, est-ce que c'est encore...
Non, mais
je sais que c'est de l'ordre de la police et de la justice, mais la question, c'est comment faire pour vivre avec des individus qui, les deux attaquent, le troisième film quand même, hein, ce qui est quand même aussi très révélateur.
On arrive beaucoup trop tard en fait, c'est qu'on voit la déshumanisation des victimes, les coups de couteau partent, il y en a 120 par jour officiellement recensés, 120 attaques à l'arme blanche tous les jours en France, et pour oui, pour non, on ne sait pas pourquoi, un regard, une cigarette. On est incapable d'expliquer à quel point aujourd'hui ces bandes tribales, ces individus déshumanisent et méprisent la vie de leurs semblables, de leurs contemporains.
On est incapable ou on ne veut pas l'expliquer? On est incapable, on ne s'y intéresse pas.
On est face à des conséquences, à une situation qui est déjà épouvantable, qui nous a déjà échappé depuis bien longtemps. Donc en fait, le chemin à faire pour comprendre ces mécanismes relève, je ne sais pas, dans certains cas de la psychiatrie, et parfois dans la psychologie des groupes, dans tout un tas d'explications culturelles, j'en passe. On est plutôt face à des conséquences, il faut réagir vite, et la seule manière de réagir, c'est justement de retrancher ces individus de la société. Ce n'est pas du tout une réussite, c'est un échec total, complet, de ce système d'assimilation, de cette illusion qu'on a eue. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire mieux.
La panne, elle est ailleurs. Je pense que qu'on soit un optimiste béat ou qu'on prétende l'être pour dire tout va aller bien, comme vous disiez, ou bien d'un pessimisme absolu en disant c'est déjà cuit, c'est plus la peine parce que de toute façon on a perdu. Bon, dans les deux cas, il y a zéro solution. Le problème, c'est la solution. Et c'est pour ça que moi, je regrette qu'on ne soit pas, pour ça que je dénigre un peu une certaine idéologie, pas par chacun a le droit de penser ce qu'il souhaite. Mais ce que je dénigre, pourquoi? C'est parce qu'on manque de pragmatisme sur ces questions-là. On marque une... Pourquoi on laisse faire un certain trafic de drogue dans les banlieues? Ben, tout simplement parce qu'on se dit que c'est la seule ressource économique et que si elle y est plus, ce sera encore pire. Lorsque une économie génère 5 milliards d'euros par an, que vous la coupez du jour au lendemain, parce qu'il faut regarder les choses de façon structurelle, il faut arrêter de les regarder comme des faits divers, des faits de délinquance ou des faits comme ça qui se produisent durer un jour. Non, c'est structurel. On est mis en place une structure qui rapporte entre 2,5 milliards et 5 milliards d'euros par an. Si vous coupez ça à la racine et qu'en parallèle, il n'y a pas d'emploi, etc., alors vous ne pouvez pas résister. Alors,
là, c'est la violence, surtout. C'est la manière dont la violence s'exprime. C'est-à-dire que s'entretuer dans un trafic de drogue ou de casino, comme on l'avait dans les années 80, on se tue à la loyale, si je peux me permettre. Là, aujourd'hui, on va agresser une mère de famille. On va flamber des jeunes après les avoir mis dans un coffre. C'est des choses qui sont quand même complètement sur.
Dans ce récit fiction, pour Laurent Berton, en fait, il y a tous les éléments de ce scénario qui sont là, de l'effondrement, et il y a aussi, c'est une thèse d'un lent pourrissement. Vous avez aussi d'autres réalités, vous avez la dette, la crise énergétique, le risque de crise alimentaire mondiale, le capital aussi. Vous parlez d'une conjonction en réalité d'événements, de données qui peuvent venir accélérer les choses.
Oui, c'est ça, ce serait un peu une salle d'épée de Damoclès avec tout plein d'épées et ils sont là depuis longtemps. La dette, on en entend parler depuis très longtemps. On a fini par se dire que c'était donc complètement virtuel finalement. Ça n'a pas l'air de nous concerner, mais sauf que tôt ou tard, ça va nous concerner vraiment de manière très violente. Et tous ces problèmes sont balayés, sont ignorés, sont dans le flux de l'actualité. Chaque jour, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, ça change, on parle d'autre chose. Et on a tendance à oublier tout ça. Et sauf que là, on a l'impression vraiment qu'il y a quand même une... En 2016, c'était peut-être un scénario improbable. Et aujourd'hui, le niveau de probabilité me semble quand même augmenter dangereusement.
À ceux qui veulent, certains disent, je ne dirais pas qui, mais enfin, quand vous lisez beaucoup d'ouvrages, il faudrait peut-être passer par un choc pour qu'il y ait une société plus apaisée, etc., pour que les choses se remettent dans l'ordre. C'est votre thèse également ?
Ça, c'est la thèse du « oui, si on n'a vraiment plus le choix, on est obligé de réagir, parce que pour l'instant, on attend, on est assis dans notre salon, on n'a pas encore besoin de passer le polaire par-dessus le col roulé. Donc, on se dit que bon, ça marche encore, ça fonctionne, et ils vont bien trouver une solution. Nos responsables brillants, qui ne sont pas là que pour communiquer, comme chacun sait, ils ont fait de longues études, et ils connaissent la situation, ils vont nous sauver probablement. » Donc on veut y croire, on veut se bercer de cette illusion parce que c'est douloureux de regarder en face cette situation.
Mais vous savez, dans la douleur de ce qui se passe et du système tel que vous le décrivez plus généralement, là, hier, il y a eu 2600 licenciés à Camailleux, par exemple, 2600 familles qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, ça participe d'une insécurité sociale absolument gigantesque. Il faut savoir que le système aujourd'hui tel qu'il est...
Sécurité sociale, culturelle...
Bien sûr, il y a toutes les dépossessions imaginables, là. Et donc, on a décidé de délocaliser massivement notre industrie vers des pays à main d'œuvre moins chère. Il y a un système capitaliste qui est derrière et qui évidemment promeut ce modèle. Là, ce modèle-là nous détruit complètement aussi. Il faut être capable de le dire. Sinon, on regarde tout par le petit bout de la lorgnette.
Oui, non, alors moi, pour prolonger ce que vient de dire Frédéric, effectivement, je pense que l'effondrement, il est multifactoriel, multidimensionnel. Toute personne qui dirait « Ah ben tiens, l'Occident ou la France singulièrement s'effondre à cause d'eux », se trompe. Effectivement, et c'était, je pense, une des limites que j'ai vues à la campagne d'Éric Zemmour. Et il avait raison d'expliquer qu'effectivement, l'islam politique dans ce pays posait problème parfaitement. Enfin, tout attribué à l'arrivée en France de l'islam politique me paraît à tout le moins insuffisant. Effectivement, nous traversons une foultitude de crises terribles. Et c'est pour ça que je trouve le mot de crise civilisationnelle déjà un peu plus englobant. Parce qu'effectivement, il y a une crise de l'éducation, parce qu'on voit que la France décroche dans tous les classements. On voit l'effondrement du classement PISA. On voit que les petits Françaises et les petits Français n'arrivent plus à lire et à compter très très tôt. On voit le niveau affligeant dans les universités, dans les grandes écoles. On voit le niveau... Il y a un sujet que j'aime bien aborder. Moi, c'est le sujet de l'architecture. Ouais. C'est un très bon exemple. Quand vous voyez la façon dont on construit les bâtiments aujourd'hui, vous vous déplacez dans n'importe quelle grande ville de France. Prenez par exemple Bordeaux. D'un côté de la Garonne, vous avez des façades du 17e, 18e siècle qui sont absolument merveilleuses, qui sont toujours là debout, en pierre de taille. Et puis en face, vous avez des programmes de construction d'Alain Juppé puis de l'écologiste en place qui ont mis en place des immeubles qui se cassent la figure. Alors vous avez là un balcon qui s'effondre, là vous voyez. Donc l'effondrement, je pourrais vous prendre 10, 20, 30 exemples.
Prenons l'exemple de la cathédrale Notre-Dame parce qu'elle illustre la couverture de ce livre. Certains y ont vu aussi symbolique de l'effondrement, en réalité, de la déliquescence de la société, de la civilisation. Je pense que vous n'avez pas choisi ça, cette couverture, par hasard aussi. Peut-être qu'elle...
Non, bien sûr, c'est vrai que la charge symbolique de cet incendie était énorme et a marqué tout le monde. Et a, je pense, en le fort intérieur de beaucoup de Français, a rallumé peut-être une certaine prise de conscience latente de ce qui se passe. Et je sens bien aussi dans la population, les lecteurs qui sont très nombreux, en dépit d'une représentation médiatique pas toujours évidente et flatteuse pour eux, il y a vraiment une inquiétude qui est très forte et qui ne trouve pas pour l'heure de réponse satisfaisante.
Pour l'heure, il n'y a aucune réponse. Ce n'est pas le début d'une réponse. C'est-à-dire, depuis le moment que vous alertez la France Orange Mécanique, ça fait combien d'années ?
C'était il y a 10 ans.
Il y a 10 ans déjà ?
10 ans. Et je m'amuse régulièrement, à comptabiliser le nombre de personnes qui ont été victimes depuis que j'ai lancé ce livre. J'ai dit, c'était à l'époque, c'était 200 viols par jour en France déclarés. Et combien il y en a eu depuis, ça n'arrête pas. Et voilà, elles sont là, elles sont... C'est terrible parce qu'elles n'ont pas de visage, elles passent complètement inaperçues sous les radars, elles ne sont pas intéressantes, manifestement, pas assez. Et pourtant, c'est dans notre pays qui est censé être développé, des droits de l'homme, etc. On parle souvent des violences faites aux femmes, des droits des femmes, mais ce sont des sujets qui demeurent dramatiquement tabous.
C'est une transition que vous m'offrez, si je puis dire, parce qu'il y a cette réalité évidemment noire et très dure. Je vais encore rappeler le titre de votre livre, « Guérilla » chez Magnus. Édition. Et puis il y a aussi, puisque vous parlez des femmes, le courage des femmes iraniennes. Il faut le rappeler, tous les jours nous en parlons avec des hommes aussi qui manifestent. Très important de rappeler évidemment la présence des hommes aux côtés de ces femmes qui se révoltent au péril de leur vie. Je voudrais vous tous vous remercier parce qu'au moment où nos féministes se battent pour certaines causes, voici ce que font les Iraniennes. On va terminer sur une reprise de Balad Shah, que vous avez certainement entendu, qui a fait le tour des réseaux sociaux et bien au-delà. Je vous remercie en tous les cas. Merci beaucoup Laurent Berton et merci à vous tous d'avoir été nos invités. Je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est l'occasion. همه